Le petit café du soir, du vendredi soir, du 20h35 qui m'a manqué comme vous m'avez manqué. Combien de jours sont streamés? J'étais sur un rythme plutôt intensif depuis septembre et puis les vacances de la Toussaint sont arrivées. La semaine dernière, on était pas mal là avec de la revue de presse, avec du des soirées de gaming. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis parti samedi à Marseille pour le Marseille Cassis. Un petit 20 km, ma reprise du sport et de la course à pied, ça c'était cool. Et puis après, j'ai enchaîné, j'ai rejoint la famille pour 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, il y a MG qui dit 7 jours sans stream. Non, on est vendredi, donc j'ai pas streamé lundi, mardi, mercredi, jeudi parce que j'étais en famille. Pas streamé dimanche parce que j'étais en voyage. Ah, on approche des 7 jours. Pas streamé samedi parce que je suis parti à Marseille, mais j'ai streamé vendredi. Donc ça fait 6 jours. Ah, c'est Nat qui a raison. 6 jours sans stream, exactement. Voilà. Bon, 6 jours sans stream, donc 2 jours en gros pour aller courir à Marseille, c'était cool. Oh, qu'est-ce que c'était bien de reprendre la course à pied. Ça m'a fait vraiment du bien. Et puis après 4 jours en famille, c'est cool. Voilà, c'était mes 4 jours de vacances de là, Toussaint. Donc on est reparti. Maintenant, on repart jusqu'à Noël maintenant. Hein. Tiens, il est fort mon micro, non? Il n'est pas un peu fort mon micro? Je vais le baisser un petit peu. Je le sature un petit peu, quoi. Je le baisse un chouïa, vous me dites si ça va. Dites-moi si c'est trop fort. Lumière, ça va. Je mets moins de lumière qu'avant, sinon ça me casse les yeux. Ok, et le son, ça va le son? Voilà. Un peu, ah oui, un peu fort. Je me baisse encore un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on est reparti jusqu'à Noël. Hein. Donc on est en petite pause de la vacance de la Toussaint de l'Hebdo Étienne du vendredi soir, hein, qui est en pause encore cette semaine. La preuve, c'est que je suis là. C'est pas l'Hebdo Étienne, c'est juste Samuel Étienne tout court. Mais l'Hebdo Étienne revient vendredi. On va jusqu'en décembre, l'Hebdo Étienne, à partir de vendredi prochain. Et puis, ça me plaît qu'il revient, pas ce dimanche, mais dimanche prochain. Et pareil, on est reparti jusqu'à Noël, avec ça me plaît, le dimanche, et avec des chouettes invités, puisque je suis assez heureux de vous annoncer et fier que les 5 prochains invités de ça me plaît, streamers, streameuses, gamers, gameuses, passionnés de jeux vidéo, qui vont venir me faire découvrir des jeux vidéo, eh bien les 5 prochains sont déjà calés. Et en vrai, c'est pas mal du tout. Merci le Kichundal pour le tabon de mine. Je suis revenu de question pour un champion aujourd'hui en courant, tout à l'heure là. On a enregistré de 9h à 19h. Puis je suis rentré en courant, le truc aère un petit peu. Le temps de me doucher, de grignoter un peu de pain et de fromage, de me tourner un café. Et puis on était prêt pour le stream de ce soir, qui est un stream donc de revue de presse, puisque ce matin, avant question pour un champion, j'ai mis le réveil un petit peu tôt pour lire les journaux. Donc les journaux sont lus de ce matin, ce qui va nous permettre de faire un petit point sur l'actu. Est-ce qu'il y a MMG qui demande si il y a des noms qu'on connaît parmi les streamers, les streameuses qui arrivent, ou gamers, gameuses d'ailleurs, hein, c'est pas forcément des streamers, streameuses, pour me faire découvrir des jeux vidéo? Tous, vous les connaissez tous. C'est que des gens formidables que vous connaissez. On va se régaler. Voilà. Bon appétit à Nira Rory qui mange son petit burger devant ce stream. Je remercie Merevin pour le sub à l'instant, pour le prime, Kathleen DR pour le 3e mois d'abonnement, Poulbo 79 pour le 11e mois d'abonnement, Lilou Rennes, les habitués sont là, merci pour le gentil message, et le 7e mois, SDFLJSDKLJFSL, 15 jours, il faudra me dire enfin comment je dois prononcer ton pseudo, ça nous arrangerait bien. Hein, merci pour ton 3e mois d'abonnement. Pivs 0, merci pour le 4e mois. Pépin Camille, 27 mois, c'est énorme, merci beaucoup. Technopop pour le Prime, Claustro, Yumdoum, Angel 63, Tekamine 85, merci pour vos soutiens. John Doe à l'instant pour un 25e mois d'abonnement. Zelda, ça va venir à un moment, il va y avoir du Zelda, bien sûr. On s'est régalé avec Minecraft, avec Guild, je vois que. Qui l'a revu récemment sur. En replay, c'est Frézid qui a vu récemment le replay avec Gil sur l'univers de Minecraft. C'était assez cool. Si Billy, l'Hebdo Étienne le vendredi soir, ça se poursuit. Hein. C'est juste que là, l'émission est en pause de vacances de la Toussaint, 2 semaines, 4 invités à caler tous les vendredis soirs. C'est un petit peu de boulot en programmation. Donc on est en vacances de la Toussaint, 2 semaines pour l'Hebdo Étienne, 2 semaines pour Samplay. Ça reprend la semaine prochaine, à la fois le vendredi et le dimanche. Civilisation, bien sûr qu'on va jouer à Civilisation, le vieux carton. Merci pour le 3e mois d'abonnement. Alors je vous lis un petit peu après un mot très rapide de la Paris Games Week, puisque demain je suis à la Paris Games Week, ma première, oh là 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 là, L'homme ou la femme, je ne sais pas, le viewer ou la vieweuse dont le pseudo est imprononçable et j'aimerais qu'il me dise enfin comment je dois prononcer son pseudo, vient d'offrir 10 abonnements. 10 abonnements à la communauté. Merci à toi, merci pour le soutien. Et donc, le viewer ou la viewuse en question me dit à l'instant, débrouille-toi. Oh merde, comment je fais? Comment je fais? SDFLJ, comment je vais t'appeler? SDFLJ, SDF. Et si je t'appelais SDF, du coup? Ce sont les premières lettres. Hein. Merci en tout cas du soutien, c'est adorable. Ouais. Ça se prononce comme ça s'écrit. Eh ben, ça se prononce Guy? Pourquoi ça se prononcerait Guy? Ouais. Donc demain... Première Paris Games Week pour moi. Et donc, bah, je donne rendez-vous à 10h, puisque je le stream. Sur place, à la Paris Games Week, à Paris, c'est la porte de Versailles, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il faut que je regarde le plan. Demain, sur la grande scène de la Paris Games Week, avec Julien Chiez, pour un quiz dans l'univers de la PlayStation. Voilà, avec plein de trucs à gagner. Voilà. Il y aura des choses à gagner sur place. Si je dis pas de bêtises, il y a 5 consoles PlayStation à gagner sur place. Il y a au moins 10 manettes, je crois, de différents types à gagner sur place, avec un grand quiz et une battle qu'on va organiser sur place avec Julien, des candidats qu'on va sélectionner, présélectionner avant le stream de 10h, donc en gros entre 9h30 et 10h. Donc des consoles, des manettes, et il y aura pour spécifiquement pour le chat, pour vous en fait, sur ma chaîne Twitch qui diffusera cet événement demain, ce sera un stream d'une heure et demie, il y aura 10 jeux le dernier Spider-Man, voilà, 10 jeux à gagner. Ça c'est que pour vous en deux fois, il y aura deux fois 5 jeux, voilà, de petits, il y aura donc des questions qui sont spécifiquement pour vous et donc ces jeux on ne pourra pas les gagner sur place, on pourra les gagner que dans le chat, voilà. Donc je donne rendez-vous demain, ça va être sympa. En plus moi c'est mon premier premier stream comme ça, comment dire, comment le qualifier. Demain, c'est mon premier stream comme ça, un peu en extérieur, avec une production qui n'est pas la mienne. C'est un peu nouveau pour moi. Voilà, co-animation. Voilà, ça va être cool. En fait, je suis très content de faire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à gagner demain? La chasse sauvage, pitié. Mais non, on fait pas un stream de Witcher ce soir, c'est actu ce soir. Amandine 03, merci pour le soutien, merci beaucoup. Et mon ami SDF, encore merci pour les 10 abonnements. Allez, je vous lis un petit peu, et puis on part pour l'actu. Alexandra, merci pour le France 5 hier, c'est à vous, c'était assez sympa, on a bien rigolé avec Nagui. Si Gérald m'a beaucoup manqué, Onesram. On va streamer dans pas longtemps, dès demain soir je pense. La famille est encore en vacances là jusqu'à dimanche. Demain matin, stream donc grand quiz sur l'univers de la PlayStation. Comment j'ai annoncé le truc d'ailleurs précisément, tenez. Et demain soir on se fait un stream sur The Witcher je pense. Hein. Allons voir sur le compte Twitter de Papy un peu là. Les dernières actus. Alors, tiens, ça c'est drôle ça. C'est un viewer qui m'a envoyé ça tout à l'heure. ça c'était aujourd'hui à la Paris Games Week. Théma, la taille de l'affiche. Retrouvez demain Samuel Etienne, Julien Chiez pour un grand quiz PlayStation sur la grande scène. Théma, la taille du bandeau. Voilà. Évidemment, j'ai retweeté en disant une connerie comme d'habitude, c'est pas un peu petit. Voilà. Donc ça c'est annoncé. Là, donc je me rends compte que personne. Sur cette image, ne regarde cet écran. À quoi ça sert que du gros soit des carcasses? Voilà, regardez, il y a pas un. Hein. Et ça regarde de partout, sauf... bon. Voilà. Donc ça, c'est demain. Ça, c'est moi aujourd'hui à Question pour un champion avec Cécile, ma maquilleuse, qui est ma maquilleuse de toujours. Hein. Je suis assez fidèle de nature, notamment dans le travail. Et Cécile est ma maquilleuse depuis mon premier jour de Question pour un champion, donc c'est notre 8e saison ensemble, voilà. Ça, regardez, effectivement, c'est le stream de demain matin. On se retrouve demain samedi à la Paris Games Week. Un grand quiz pour vous faire gagner sur la grande scène Fnac et sur Twitch, des consoles, des manettes, des jeux. Rendez-vous à 10h, bon, c'est ce que je vous ai dit. Ouais. Oui, Julien, je l'ai déjà rencontré, je l'ai déjà invité dans l'hebdo Etienne il y a quelques mois. Voilà. Et puis en ce moment, on fête le 35e anniversaire de Question pour un champion. Thierry Moreau, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vient souvent dans l'hebdo Étienne, a fait un gentil message d'ailleurs pour dire tout le bien qu'il pensait. C'est vraiment adorable. Non, pas casanier, fidèle. Moi, je ne suis pas casanier du tout. Je change d'aventure professionnelle à peu près tous les 3 mois. J'adore tout remettre en question, tout recommencer à zéro. Par contre, je suis fidèle en amitié et professionnellement quand les gens bossent bien. Quoi. Voilà. J'ai un peu des principes, j'ai un peu des valeurs. Voilà. Et je pense que si vous interrogez les gens qui m'ont croisé professionnellement depuis 30 ans que je fais ce métier, les gens vous diront que voilà, j'ai plein de défauts, mais je suis assez, carré et fidèle dans le boulot. Quoi. Thierry, par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà. Ah oh, oui, oh. Il y a eu aussi pendant les vacances, il y a eu aussi ce court-métrage, hein, cette fan-fiction publiée par Billy, hein, Rebeu des Terres, je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, hein, c'était du grand n'importe quoi, voilà, et ça c'est un tout petit extrait pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Dans cette réalité, on m'appelle Monsieur Chibre. Mon ambition, enfermer tous les streamers de la planète dans ma cave. Comme mes modos, d'ailleurs. Et pour y arriver, j'ai une armée. L'armée de la malveillance. Dans cette...
De la malveillance. Ah, oh, ce truc. Je vous avoue que quand j'ai reçu le script de ce... Il y a plusieurs mois, l'équipe de Billy, Rebeu des Terres, donc, m'envoie un script en me disant « Ouais, c'est un viewer de Billy qui a écrit une fanfiction, qui a été sélectionné. Et donc, est-ce que tu veux participer ? En fait, ton personnage est dedans. Est-ce que tu veux jouer ton propre rôle ?» Voilà. Et je lis le script et le truc n'a aucun sens, quoi. Je ne comprends rien, évidemment. Du coup, je dis oui. Je dis oui quand je comprends rien. C'est que forcément, ça va être drôle. Donc, je dis oui et on se retrouve à tourner ce truc. Et puis, c'est sorti là pendant que j'étais en congé. Voilà. Et je sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais c'était du grand n'importe quoi. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Et je connaissais pas Billy, Rebeu des Terres, et je peux vous dire que c'est un garçon formidable et hyper gentil. Voilà. Voilà. Je sais pas si certains l'ont vu de ce truc. Quelqu'un. La mise en scène absurde d'un script absurde, c'était trop drôle. Exactement, basé de contraste, exactement. La mise en scène absurde d'un script absurde, c'était exactement ça. Ouais. Combien de fous rires sur le tournage? On a bien rigolé. En vrai, on a bien rigolé. Ouais. C'était à ceux qui l'ont raté, allez voir sur la chaîne YouTube de Billy. Ça n'a aucun sens. Et vraiment, on a beaucoup, 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 beaucoup ri. Beaucoup ri. Qu'est-ce qui se passe? C'est notre ami SDF, LJSDKLFSLK. J'espère que j'ai oublié aucune console. Qui vient de lancer 20 abonnements à la commune. Bon, manifestement, vous avez bien aimé la vidéo. Et puisqu'on parle de vidéo, merci encore mon ami pour ce soutien, c'est adorable. Eh bien, revenons d'un mot sur, vous n'avez pas le droit de vous moquer, hein, sur le Marseille Cassis qui était donc ma reprise du sport. C'était dimanche, une classique, hein, Marseille Cassis. Bon, pour moi, c'est une vraie reprise puisque l'an dernier, pour les raisons que vous savez, un peu trop de boulot, j'ai arrêté le sport pour la première fois de ma vie. C'était une reprise avec objectif de retrouver mon niveau de marathonien amateur, quoi, puisque c'est une distance que j'aime bien. J'en suis très très loin aujourd'hui et je prends le départ donc à 9h dimanche matin de cette course, un peu pressé parce que par ailleurs ensuite je devais partir rejoindre ma famille et je devais pas louper les moyens de transport adéquats. Et au bout de quelques kilomètres, qui je croise? Une amie que vous voyez à droite ici, qui est Nathalie Simon, hein, grande championne. Nathalie Simon qui est une habituée des sports d'endurance, que j'ai croisée notamment sur Ironman quand je faisais du triathlon, et je la croise, elle était en plein direct sur France 3, voilà. Et donc, je la salue, elle me dit, je suis en plein direct sur France 3, est-ce que tu veux bien dire quelques mots? Eh bien, on va écouter ça. Attendez, je vais vous recadrer ça. Je vais vous recadrer ça. Ah oui, il n'est pas terrible cette fenêtre. Peut-être sur YouTube. Ah oui, mais non, je ne suis pas sur YouTube. Oh, on va voir ça comme ça. Bref, ne jugez pas la foulée. C'est une reprise, c'est une foulée d'octogénaire. Ne jugez pas le style. Je suis un peu au bout de ma vie. C'est une reprise difficile, mais je me suis régalé. Voilà la petite interview en courant, s'il vous plaît, avec Nathalie Simon, que j'adore. Je pense qu'on est au 5e kilomètre par là. Let's go.
Et moi, très heureuse parce que je crois que t'as arrêté de courir pendant presque un an.
Oui, oui, parce qu'un peu trop de travail, j'ai dû faire la croix sur une passion depuis de 20 ans, quoi. Et là, c'est ma première course depuis un an et demi. C'est un test pour voir où j'en suis. Je suis heureux, c'est des grands moments.
Pleine forme.
De plaisir, quoi.
Est-ce que c'est ton premier Marseille-Cassis, Sam?
Oui, c'est mon premier Marseille-Cassis. Quand j'ai dit que j'allais faire cette course, tout le monde m'en a parlé. On m'a dit, tu verras, c'est une classique. Le paysage est magnifique. Bon, alors, salut. Bon, elle monte un peu.
Ça monte, là. Hein.
Là, on est dedans, d'ailleurs. Hein.
Voilà.
Mais c'est un vrai plaisir de retrouver la communion, le plaisir de partager une passion ensemble. La course à pied, c'est souvent individuel à l'entraînement. Mais ça devient un moment collectif au moment de la course. Je suis heureux de retrouver ça.
Alors voilà, ils viennent de le dire, Sam. C'est des hauts et des bas, et là, ça va être des vrais hauts.
Nathalie,
ça commence à monter sévère.
Ouais, oui. Nathalie, juste une question. Une question à Samuel et Étienne. Je sais que c'est un triathlète. Hein. Il a fait des Ironman.
Oh, la foulée de papy.
Vous en avez fait aussi, Nathalie. Ce qui est le summum de l'effort. Hein. C'est plusieurs kilomètres de natation. Une étape de Tour de France, en tout cas pour l'Ironman de Embrun à vélo. Et puis, on finit juste les deux premières épreuves avec comme...
Si vous regardez bien, il y a un truc qui reste encore correct dans le corps du papy, c'est les mollets. Les mollets sont encore fit, le reste une catastrophe, mais on va retrouver le niveau.
Marathon, quoi, juste ça. Il en est où? Il compte reprendre les Ironman, Samuel Etienne?
Non.
Alors, je pense pas à retrouver le niveau de l'Ironman parce que ça demande un volume d'entraînement conséquent. J'aimerais bien retrouver mon niveau marathon. Alors, c'est drôle parce que à ce jour, j'ai fait 23 marathons. Et je vais participer au marathon pour tous des Jeux Olympiques.
Ouais.
Ce sera mon 24e en 2024.
Ah.
Donc rien n'arrive par hasard. L'objectif, c'est pas Ironman, c'est retrouver le niveau de marathon pour le faire tranquillement, quoi. Voilà. Et peut-être en direct, en stream sur ma chaîne Twitch.
Quoi ?
C'est un projet.
Bah, je te souhaite de t'entraîner. Je sais de quoi je parle. Merci Sam, mais belle course.
Merci.
On
sait.
Quoi ? Comment ça je pourrais streamer ? Le marathon des Jeux Olympiques, le fameux marathon pour tous, peut-être. C'est un projet, je suis en train de travailler là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez, je suis loin d'avoir retrouvé mon meilleur niveau. Hein. On aurait dit une petite saucisse en train d'agoniser sur le bord de la route. Je suis allé au bout des 20 km, tout doucement, très tranquillement, sans prendre de risque, puisque sur cette course, vous avez 10 km qui montent avec un petit dénivelé sympa, puis après 10 km qui descendent. Donc là, on est dans la montée, ça se voit pas, mais en fait, ça monte là, d'où le style magnifique de Papy Sam, mais en vrai je suis un peu au bout de ma vie. Et puis du coup, comme je suis allé très doucement, bon, ça s'est fait assez facilement. Je me suis même permis de courir un petit peu après pour aller attraper mon bus, puisque je voulais retrouver la famille et j'étais un petit peu contraint par le temps. Du coup, j'avais un vrai objectif de temps. Je pouvais difficilement faire plus de 2 heures, sinon j'allais louper mon bus. Effectivement, j'ai un dossard a priori pour le marathon pour tous, le marathon des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et l'objectif, c'est de le courir et idéalement de le streamer intégralement, entièrement, pour vous, sur ma chaîne, voilà, en le commentant. Donc on est en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. J'ai 8 mois, puisque ce marathon, je crois, est début août, pour retrouver mon niveau d'avant, voilà, et pour faire le marathon, et surtout pouvoir discuter, le streamer, discuter avec les gens qui passent, faire des petites pauses, ou faire marrer, voilà, ce ne sera pas un marathon pour faire une perf, avec la poussette de stream, bien sûr, c'est un peu l'idée. Et il va falloir un éclairage, bien sûr, Antoine a raison, puisque c'est un marathon qui va se courir le soir, qui va se courir la nuit, donc il nous faudrait de la lumière. Voilà. Mais on saluera les gens, on dira bonjour, je vous ferai participer à la fête, parce que la course à pied, en général, et le marathon en particulier, c'est une grande fête, hein. C'est ce que je dis à un moment dans mon échange avec Nathalie, je ne sais pas si ça s'entend bien parce que je suis un peu essoufflé, mais la course à pied, c'est à la fois un effort extrêmement individuel et solitaire lors de l'entraînement. On court souvent tout seul, moi c'est ce que j'aime d'ailleurs, d'avoir un petit moment de calme, une petite bulle pour moi, et un moment de partage, de communion, d'être ensemble quand on se retrouve le jour d'une course, et on n'est pas forcément tendu vers un objectif, hein. Certains veulent améliorer leur chrono, mais d'autres sont là juste pour le plaisir d'être là, de faire une course de plus, et le plaisir d'être ensemble, de partager ce moment ensemble, de partager une passion commune qui est la course à pied. Voilà. Et ça, si j'arrive à streamer ce marathon pour tous, ce marathon des Jeux, bah c'est ce que j'essaie de vous faire découvrir, c'est que l'ambiance d'un marathon, en fait, ça peut être extrêmement chaleureux. Voilà, pour les projets, mais on en a d'autres ici, il y en a plein. Si vous saviez le nombre de fers que j'ai au feu, de projets que j'ai sur Twitch, dans les mois à venir, pas les années, hein, dans les mois à venir, là, des trucs que je suis en train d'essayer de mettre sur place, en plus de tout ce que vous connaissez déjà. Il y a chouettes trucs qui arrivent, quoi. Voilà. Excel Nico demande, il faut des autorisations. Bien sûr, bah tiens, c'est un des trucs dont il faut que je m'assure. C'est-à-dire, je vais pas streamer sans autorisation cette course. Il faut que j'ai l'autorisation des organisateurs, notamment du Comité Olympique, voilà, avec qui j'ai de bonnes relations. Mais est-ce qu'on va me donner l'autorisation de le streamer? Je pense qu'il y a des trucs de sécurité, tout ça. Voilà. En tout cas, c'est une question que je vais poser là dans les semaines qui viennent. Je remercie les subs, je remercie Clementine pour le 6e mois, Marmat8951 pour le 27e mois, Lazarus pour le 6e mois, notre ami SDF pour les 20 abonnements à la commu encore, Minos, je t'ai vu, un grand merci pour le 27e mois, je vois que tu es arrivé pendant la vidéo de Billy, Hecta pour le 5e mois, Jean-Sébastien pour le 8e mois, je ne vous avais pas vu, Amandine03 pour l'abonnement, vous êtes formidable. Voilà. 25 minutes, pop, on approche de la fin de l'introduction, puisque la règle ici, c'est que l'introduction, le bonjour, le bonsoir, ne dure pas plus de 30 minutes, parce qu'avec moi, ça peut durer des heures. Dans 4 minutes 30, on lance la revue de presse. J'ai encore 4 minutes 30 pour vous lire. Est-ce que tu penses que Tony pourrait venir un petit coup à la maison pour faire une rencontre d'Iniko Manga? Tony, tu parles de qui? Tony. Tony quelque chose, Tony Estanguet, le président, oui, bien sûr, encore un leak, Tony Estanguet, il va venir à la maison bientôt pour un stream, pour une rencontre Étienne, voilà. Ah ouais, mais si vous savez tout, si vous devinez tout à l'avance, c'est pas drôle, hein. Bon, voilà, bon, ça c'est un des trucs en préparation, voilà, mais c'est un des petits trucs, ça, c'est un des petits trucs, Tony Estanguet, donc le patron des Jeux, il va venir bientôt, dans l'hebdo Étienne, et on pourrait lui poser toutes les questions que vous souhaitez sur les Jeux Olympiques de Paris. Eden Blaster, l'ami Hugo est là, merci pour le 19e mois. Claire 1710, merci pour le soutien aussi. Mais non, c'est pas fini The Witcher 3. Rini, ce soir c'est un stream d'actualité de revue de presse, mais demain soir 20h, samedi, la famille est encore en vacances, je peux vous dire qu'il y aura un petit stream de The Witcher 3 demain soir 20h. Minos, il vole les concepts de Domingo. Oh, c'est mignon. Il vole les concepts de Domingo. Mais non, pas du tout. PA, pour qui j'ai un grand respect et qui a fait un très joli marathon de Paris il n'y a pas longtemps, il ne l'a pas streamé, il l'a enregistré. Parce qu'il voulait pas, il voulait faire une perf, ce que je respecte tout à fait. C'est beau la jeunesse, c'est beau la vigueur. PA, il est encore dans une période où il peut faire des records. Moi, c'est fini les records, c'était il y a très longtemps. Donc PA a enregistré, il a tourné, il a filmé son marathon parce qu'il voulait pas commenter, parce qu'il voulait pas perdre de temps. Il voulait faire un record. Et il a fait un très beau temps d'ailleurs. PA. Et après cette vidéo, il l'a diffusée sur sa chaîne Twitch en la commentant. C'est pas ça qu'on veut faire. Moi, ce qui m'intéresse sur Twitch, c'est le direct. Et donc, je vais vous faire vivre ce truc, si j'arrive à le faire, en direct, quoi. Je ne veux pas l'enregistrer et puis vous le diffuser le lendemain ou deux jours après. Je veux vraiment vous le faire vivre en direct pour que vous puissiez éventuellement me poser des questions et poser des questions aux gens qui sont avec moi. Donc, vous savez, en télé, d'une manière générale, et sur les écrans, on n'invente rien, hein. C'est-à-dire que mettre des gens autour d'une table, ça s'appelle un talk. Ça existe depuis la nuit des temps, quoi. Courir en streamant, alors pour le coup, moi je l'avais fait avant que PA fasse son marathon. Personne n'invente rien en fait, hein. C'est juste que chacun fait à sa sauce. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous revenez à l'époque de l'ORTF, vous avez peut-être trouvé des gens qui ont vraiment inventé des choses. Voilà. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Il a copié, c'est comme si. Tu vois. Donc c'est pas ça qui est très important, quoi. Alors à partir d'Ardisson qui a inventé la télévision, mais ça c'est une autre histoire. En fait, personne n'invente pas grand chose en fait dans nos univers, quoi. On fait juste différemment, quoi. Mon record sur marathon, c'était il y a très longtemps, compote, c'est 3h13. 3h13 à Berlin. Il y a très longtemps. Je suis très, très loin de pouvoir faire ça aujourd'hui. Allez, oh, 29, il reste une minute. Oui, je pense qu'on va courir avec la poussette de stream, sauf si je trouve un autre système. Non, 3h13, c'est pas fou du tout. Le record du monde, il est juste au-dessus de 2h. Donc non, c'était un temps de quand je courais. C'est un temps de quelqu'un qui courait beaucoup, qui avait que ça à foutre à l'époque, quoi. À quel âge? C'était, je crois, je sais pas, c'était en 2003, je crois, 2002, 2003. Donc, je suis né en 71. 2002, j'avais quel âge? 31, 31, 32 ans? Oui, c'était il y a 20 ans. Voilà. Voilà. Bon, bah, les amis, il est 29, 30 minutes, voilà, pile poil à la seconde près après le début de ce stream. Donc, je pense qu'il est temps de se pencher sur les journaux. Sachant que ce soir on fait un stream de revue de presse, demain matin à 10h je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch en direct de la Paris Games Week pour un grand quiz avec des trucs à gagner. Et demain soir on fera un petit stream de The Witcher, je pense, avec toutes les bêtises que je raconte, puisque je suis une catastrophe sur les jeux vidéo et c'est ça qui est drôle. Branchons. Il y aura quoi à gagner? Il y aura des consoles, il y aura des manettes, il y aura des jeux vidéo. Ça va être une dinguerie. Arrêtez avec vos questions, on va jamais commencer le stream. Il y a trop de questions intéressantes, vous m'énervez. Arrêtez avec vos questions de qualité là. C'est fatigant, hein. C'est quoi? C'est fou ça. Non, il n'y aura pas un slip Samuel Etienne dédicacé. Non. Arrêtez avec vos questions. Stop. Il y a trop. Arrêtez vos questions pertinentes. C'est fatigant. Arrêtez. Stop. Mettez des questions bêtes un peu, que je sois pas tenté d'y répondre. Ah, c'est fatigant. Prêt? Est-ce que vous êtes prêt pour une petite revue de presse pour revenir sur l'actualité de ces dernières heures? Est-ce que vous êtes prêt pour un sommaire? C'est-à-dire que pour ceux qui ne peuvent pas rester deux heures et demie avec nous ce soir, qui sait, on fera peut-être un petit peu de Rocket League en dessert. Eh bien, vous avez l'essentiel de l'actualité via un sommaire en l'espace de. Ouais, on va faire 5 minutes de sommaire. Voilà. Est-ce que c'est un mur porteur derrière moi? Bien sûr, c'est un mur porteur. Évidemment. Pourquoi Nagui te surnomme le poireau? C'est une histoire de... Je ne peux pas vous raconter, c'est interdit au moins de 18 ans. Valfar, merci pour le 3e mois d'abonnement. Yann JFR, merci pour le 24e mois d'abonnement. Et c'est parti pour le sommaire. Est-ce que ça marche? Oh, je viens de le brancher. Bon. Les amis, ce soir, ça c'est le sommaire pour l'instant, on va revenir... D'abord sur la tempête Ciaran, qui est donc à déferler notamment sur les côtes de l'Ouest. Tempête Ciaran, comment le pire a été évité, nous disait Libération ce matin. Les vents violents qui ont frappé le Nord-Ouest de la France ont fait 2 morts, je ne sais pas si le bilan s'est alourdi depuis ce matin, causé des dégâts importants et privé d'électricité plus d'un million de foyers, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Sans un système de prévision et de prévention efficace, et là-dessus les journaux sont assez d'accord. Donc on lira pourquoi dans cette catastrophe météorologique et le bilan qui est hélas un peu lourd quand même, eh bien il y a de quoi se féliciter et d'espérer sur un système de prévision qui s'est amélioré par rapport à des tempêtes précédentes. Donc Libération en parle, vous verrez que c'est Le Parisien, je crois, qui est un peu sur la même ligne, tout en regrettant qu'il y ait autant de gens qui ont été privés d'électricité. À l'heure où nous parlons, on ira voir les dernières actualités, il y a encore des gens qui sont privés d'électricité. Le pire a été évité, estime toutefois Le Parisien. Vous savez, on reproche, et le reproche il est justifié aux médias souvent de ne parler que de ce qui ne va pas. Là, vos journaux ce matin s'accordaient à dire que eh bien, il y avait des choses réussies à saluer dans la gestion de cette crise, notamment sur la prévention. On parlera du Proche-Orient, puisqu'ici on parle de tout, même des sujets qui provoquent des débats enflammés, et c'est bien normal sur un tel sujet. On parle du Proche-Orient depuis le début de la crise, de la guerre, de la nouvelle guerre israélo-palestinienne. On en parle quasiment tous les jours. Là, j'ai fait un break de 3-4 jours pour les vacances. On parlera des enfants avec Libération, des enfants palestiniens en première ligne de la guerre, vous le savez. Le Figaro nous en parle. Le Figaro nous en parle aussi. Ce sont deux journaux très différents, Libération et Le Figaro, qui n'ont pas la même éditoriale, mais ils se soucient tous les deux du sort des enfants palestiniens. La bande de Gaza est devenue un cimetière pour les enfants, disent les ONG. Il faut en parler. On verra avec la Croix comment Israël est en train d'engager la bataille Gaza, même plus de préparer, mais bien d'engager la bataille puisqu'elle a commencé. Ce n'est pas une offensive majeure, mais il y a des incursions. De quel type, avec quels objectifs, on le verra grâce à la Croix qui fait un dossier assez complet sur la situation actuellement, et un dossier un peu plus large encore. Israël dans le piège du Hamas, l'impossible stratégie de l'armée israélienne, puisqu'avec la Croix on se penchera sur les opérations qui ont lieu en ce moment, on verra pourquoi, c'est extrêmement intéressant, pourquoi le monde nous parle de l'impossible, impossible stratégie de l'armée israélienne. Le dossier du Monde est vraiment intéressant là-dessus. Et puis, comme je vous l'explique régulièrement, c'est un conflit, un vieux conflit qui date au moins de la création de l'État d'Israël en 1948, mais bien, bien avant, si on veut remonter un petit peu dans l'histoire. Il faut comprendre que dans les deux camps, depuis toujours, il y a des gens qui poussent au conflit, qui poussent à la guerre. Et dans les deux camps, il y a des gens depuis toujours qui espèrent la paix et qui tentent le processus de paix et qui tentent de tendre la main à l'autre camp. Voilà. Par exemple, en Israël, il y a, bon, schématiquement résumé ici, la gauche, voilà, des gens en Israël qui croient à la paix avec les Palestiniens, avec les Arabes, et qui aujourd'hui sont plongés dans un profond désarroi, le profond désarroi de la gauche israélienne. Une partie des sympathisants de la cause palestinienne, on parle bien d'Israéliens ici, craignent que ne s'éloigne une solution politique en conflit. Ça, on le verra, je crois que c'est dans Le Monde. Voilà. Le Monde qui nous publie aussi un édito sur le mondial de football de 2034. Alors, je suis un peu triste ce matin parce que j'ai vu un article que j'avais noté, mais que je n'ai pas retrouvé, que je crois qu'il était dans La Croix, que je n'ai pas retrouvé, sur pourquoi la FIFA est sur le point d'accorder le mondial de football en 2034, non pas au Qatar, hein, qui l'a organisé il n'y a pas longtemps, mais à l'Arabie Saoudite. Et donc ça commence à provoquer beaucoup de débats sur les conditions de cette attribution, notamment parce que l'Arabie Saoudite est un peu étrangement seule candidate à l'organisation de ce mondial de football 2034. Souvenez-vous des débats sur la Coupe du Monde au Qatar, mais on va retrouver un petit peu les mêmes questions. Eh bien, justement, Le Monde, dans son édito, se penche, et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on en parle, dans les tours de passe-passe de la FIFA à ce propos. Oui, seul parce que l'Australie s'est retirée, mais vous voyez, le truc est vraiment super compliqué, et j'ai envie de dire super chelou. C'est en ce moment même, comme je l'ai croisé hier soir sur le plateau de France 5, je vous signalerai que on fête là ce soir les 30 ans de Taratata, et c'est beau, moi je suis pas un grand consommateur de télévision, mais c'est beau qu'une émission aussi ambitieuse, exigeante de chansons, de musique, de spectacles vivants, en direct, dans les conditions du direct, une émission qui devait exister pour quelques années au mieux, ait pu durer 30 ans, c'est grâce à quelqu'un qui s'appelle Nagui, c'est grâce à lui, voilà, à l'engagement qu'il a mis dans cette aventure. Et donc, c'est un peu son anniversaire ce soir. C'est en ce moment même sur France 2. C'est un grand spectacle autour des 30 ans de Taratata. On parlera de la Paris Games Week, hein, puisque j'essaie de vous trouver des actus un petit peu légères quand même aussi, pour nous changer les esprits. Donc, c'est la Paris Games Week. Qu'est-ce que c'est la Paris Games Week? Je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé. J'y vais demain pour la première fois. Je vais être demain matin pour un stream, mais je vais aussi m'y promener demain après-midi pour voir un peu à quoi ça ressemble, pour essayer de comprendre un petit peu l'événement. Et on a un petit article dans Le Parisien sur toutes les facettes du jeu vidéo à la Paris Games Week. Et puis j'ai trouvé un joli portrait dans Le Monde de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est venu dans l'Hebdo Étienne récemment et que j'ai adoré et qui nous a fait rire, qui était tellement sympa et tellement drôle aussi, qui est Alison Wheeler, l'humoriste, hein, qui a fait plein de choses dans sa vie récemment, qui était dans l'émission Quotidien, mais qui a fait plein de choses avant, et donc là qui part en solo maintenant pour un spectacle. Voilà. Elle était à la maison il n'y a pas longtemps dans l'Hebdo Étienne. On a un joli portrait dans Le Monde qui lui est consacré, et on finira avec rien, on finira avec ça. Voilà, pas mal. Voilà, petit sommaire, on a du lourd, du très très lourd, du triste, du dramatique, et puis des choses un petit peu plus légères. Voilà ce dont nous allons discuter ensemble ce soir, puisque ici c'est pas un JT, hein. C'est pas des infos qu'on vous plaque, qu'on vous impose de façon verticale, descendante comme ça. C'est des infos que j'émets, dont je vous donne les sources, et puis on en débat vous me donnez d'autres sources, vous me parlez d'autres informations, vous me donnez votre regard, votre avis sur l'actualité, et on en parle ensemble. C'est tout l'intérêt d'être sur Twitch. Néo, merci pour le 3e mois d'abonnement. Captain Oui Oui pour le 27e mois. Les habitués sont là. Phil ou non pour le 14e mois. John Satura pour le 20e mois. Et Fleurel, merci pour le 10e mois. Valfar pour le 3e mois. Vous êtes formidables. Merci du soutien. Ah. Allez, je vous lis et on commence cette revue de presse. On était bien le sommaire, on était bien efficace. Nagui bientôt sur Simplay pour le jeu FIFA. Oui, on lui a posé la question. Je lui ai posé la question hier soir de savoir s'il était gamer. Il m'a dit qu'il jouait un petit peu à FIFA. Il était au courant parce qu'il m'a même dit ouais, le jeu change de nom puisqu'ils ont perdu la licence FIFA. Donc il a l'air de connaître. Ouais. Après, je sais pas si j'ai invité Nagui pour jouer à FIFA. Je sais pas s'il va être intéressé. Je sais pas s'il a du temps. Mais si l'idée vous plaît, je peux l'inviter. Dominique de Villepin, tu as raison, Obérix, nous l'avons écouté ici même. Tu parles de Dominique de Villepin sur BFM, avant il était passé sur France Inter, on avait écouté et regardé, puisque c'était filmé, cette intervention de Dominique de Villepin sur le conflit israélo-palestinien qui était effectivement, que j'ai trouvé à titre personnel assez pertinent. Tu as raison. Bon, on va y aller, tranquillou. Nagui, ça a l'air de vous plaire. Notre ami SDF estime que ce serait une soupe de cheveux blancs. Il a encore plus de cheveux blancs que moi, Nagui. Voilà. En vrai, moi, je suis pas tout à fait dans le même secteur d'activité que lui, mais c'est quand même quelqu'un qui a bossé énormément, qui a donné beaucoup d'énergie à ses projets, voilà, et qui a beaucoup de succès aujourd'hui, mais qui mérite ce succès. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné, quoi. Voilà. Non, rien sur Wemby. Je vois pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux sur les highlights de Wembanyama en NBA. C'est vrai qu'il commence à impressionner tout le monde. Est-ce qu'on en est vraiment surpris? Mais il n'est pas impossible que dans les prochains jours, on ait des articles un peu de fond sur les premiers jours de Wembanyama en NBA. Je surveille ça de près. Ouais. Mais après, la prochaine revue de presse, elle n'est pas avant lundi soir, hein. Puisqu'en gros, je vous ai donné le programme. Demain, Paris Games Week, demain 10h. Demain soir, un petit stream de gaming. On va se faire un petit The Witcher 3 pour que vous écoutiez mes bêtises sur le lore de ce jeu. Dimanche, je ferai un petit stream de gaming, je pense aussi. Et puis lundi soir, comme je serai en question pour un champion, lundi, mardi, mercredi, jeudi, eh ben, les revues de presse, ce sera le soir. Ce ne sera pas le matin. Puisqu'il faut que je parte en tournage, je pars à 7h30, 8h le matin, donc ça n'est pas possible. Alors, il y aura de la revue de presse la semaine prochaine, mais ce sera le soir. Et puis après, on retrouve la routine, vendredi soir, l'hebdo Étienne, dimanche soir, ça me plaît. Momo Jojo Monkey nous dit « Mais pourquoi accorder autant d'importance au débat sur la bande de Gaza ?» Alors c'est pas un débat, c'est un conflit, c'est une guerre. Quand depuis la France nous ne pouvons rien faire et que ce n'est pas notre conflit, bah parce que nous ne sommes pas que français, que nous ne sommes pas que bretons, parisiens ou dijonnais ou marseillais ou que sais-je, ou de tel ou tel quartier, nous sommes des humains habitant sur une terre, voilà. Et rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Nous intéressons à tout ce qui ne va pas sur notre planète pour pouvoir, puisque nous sommes d'un décrotable optimiste, pouvoir un jour peut-être arranger les choses. C'est parce que sur la surface de cette terre et au fil des siècles, il y a des gens qui se sont préoccupés des soucis des autres, en fait, que les choses parfois se sont réglées. Et si on s'intéresse qu'à son petit nombril, effectivement, et qu'à son confort et qu'à son intérêt, en fait, c'est la meilleure façon d'aller vers des conflits, puisque ton intérêt n'est pas celui de ton voisin, ni d'il y a 5 mètres, encore moins d'il y a 10 mètres, encore moins qu'il y a 500 mètres, encore moins de celui qui a 1 km, etc. Donc, justement, ne s'intéresser qu'à ses soucis, c'est la meilleure façon, à un moment, d'aller vers le conflit. En s'intéressant aux soucis des autres, en essayant de les comprendre et de comprendre leur logique à eux, qui est parfois bien éloignée de la nôtre, c'est peut-être comme ça qu'on peut éviter les conflits. Voilà pourquoi on se soucie ici de tout ce qui se passe dans notre pays, même si ça ne nous concerne pas directement, de ce qui se passe sur la terre entière, mais ça ne nous concerne pas directement, puisque tout simplement, ça impacte des gens qui sont comme nous, qui sont juste des humains, et c'est quelque part de notre devoir de nous y intéresser, et c'est une façon aussi de nous rapprocher d'eux. Voilà, c'est mon côté un peu humaniste et optimiste. Peut-être que je suis d'une autre époque, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Allez, on y va. C'est parti.
Let's go.
Fly, oui, merci beaucoup pour le cinquième mois d'abonnement. On commence donc par cette tempête. Et pour une fois, alors c'est difficile de parler de bonnes nouvelles, mais dans cette mauvaise nouvelle, puisque le bilan est lourd, hein, on parle d'au moins 2 morts en France, il y a quand même des motifs, je le dis avec beaucoup de prudence, de satisfaction, parce que ça aurait pu être bien plus grave. Et il y a des choses dans la prévention qui se sont énormément améliorées par rapport aux grandes tempêtes précédentes. Pensez notamment à la tempête de, j'ai oublié la date, 99, on va vérifier si je ne dis pas une bêtise. Tempête Ciaran, c'est donc Libération qui nous le disait ce vendredi matin en sa une, comment le pire a été évité. Les vents violents qui ont frappé le nord-ouest de la France ont fait 2 morts donc, causé des dégâts importants et privé d'électricité plus d'un million de foyers, à l'heure où on parle, il y a encore des gens qui sont privés de courant, mais le bilan aurait pu être bien plus lourd sans un système de prévision et de prévention efficace. Et vous me confirmez dans le chat, effectivement, que la grande tempête, c'était 99. Qu'est-ce que veut dire Libération par là? Édito, regardez à gauche ici, de Paul Quignot, que nous lisons. Merci la science. Merci la science. Il ne faut évidemment pas perdre de vue que la tempête qui a secoué l'ouest et le nord de la France à partir de mercredi n'est en rien une bonne nouvelle, bien sûr. Hein. 2 personnes sont mortes, quelques blessés sont à déplorer, des milliers d'arbres ont été arrachés, quelques blessés sont à déplorer, des dégâts importants ont endommagé les réseaux électriques ou routiers. Donc personne ne se félicite de ça, bien sûr. Mais, merci à la science, car écrit Libération, il est indéniable que la qualité des prévisions météorologiques, leur précision et donc les algorithmes, les datas, les modélisations, les technologies qui ont permis ces progrès ont largement contribué à limiter l'impact du passage de la tempête. Ces données météo précoces et précises, sont le point de départ d'une chaîne vertueuse, diffusion anticipée d'informations au grand public, avec les conseils de prudence qui vont avec, mise en branle des différents plans d'alerte, les secours, santé, transport, par les autorités. Sans tout cela, les bilans humains et matériels auraient été sans nul doute, été beaucoup plus lourds. À Chernard, alors on a... Chacun sa vision de ce qu'est un bilan lourd. À Chernard, on dit comment ça, bilan lourd, 2 morts. 2 morts, c'est pas beaucoup. C'est quoi quand il y en a 100, quand il y en a 1200 morts dans des attaques terroristes, des tsunamis à partir d'un mort, pour moi, c'est un bilan lourd. Voilà. Tu iras, si je voulais être un peu provocateur, je dirais tu iras dire ça aux familles des deux victimes. À partir d'un mort, pour moi, le bilan, il est lourd. Bah, après, c'est là où je mets le curseur, moi. Tu le mets où tu veux. Donc, la population a été alertée, des vies ont été épargnées. Pertinence des modèles de prévision météo, SMS d'alerte, dans la région, si vous y étiez, peut-être que vous les avez reçus vous-même, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient en Bretagne pendant les heures où la tempête a soufflé. L'anticipation a permis de limiter les conséquences de l'événement extrême qui a surtout touché le nord-ouest de la France malgré 2 morts et une quinzaine de blessés. La Mumzette, merci pour le soutien. Geek Forever 31, merci pour ce 4e mois. Merci à tous les deux. Lisons un petit peu Libé qui nous parle aussi de cette tempête. De ce drame de 1999, on parlait de bilan, 92 morts en 99 avec la tempête. La puissance et l'itinéraire des tempêtes Lothar et Martin, certains me parlaient de 2 tempêtes tout à l'heure dans le chat, vous aviez raison, 2 tempêtes n'avaient pas été correctement anticipées. Je vois qu'il y a des gens qui ont vécu cette tempête là dans le chat, Renan notamment, j'étais dessous, voilà, dans le 29 c'était un enfer, me dit Lowles. Résident en Bretagne pour Julo, en plein dedans, me dit Curune, 29 Finistère, bien sûr. Ouais. J'y étais, me dit Ziz également. Donc 99, 2 tempêtes qui n'étaient pas anticipées, et cette fois, une gestion maîtrisée. Ciaran, je ne sais pas si on prononce d'ailleurs Ciaran ou Kiaran, puisque je n'ai pas écouté les médias audiovisuels ces dernières heures. Peut-être qu'on dit Kiaran d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez entendu à la radio ou à la télé d'ailleurs? Ciaran? Kiaran, ok, je connais pas l'origine du mot. Est-ce que vous savez pourquoi on dit Kiaran, du coup? Bon, c'est un mot qui est peut-être un mot étranger. Vous savez pourquoi ou pas? Vous savez pourquoi ou pas? Juste vous répéter parce que vous l'avez entendu. Irlandais, celte. Vous êtes plusieurs à me dire que c'est peut-être ces celtes gaéliques. Ok, let's go pour Kiaran et merci de la correction. Malgré une gestion maîtrisée, Kiaran met tout de même en évidence des vulnérabilités importantes, à commencer par le manque de résilience du système électrique, donc ça c'est quand même un bémol à mettre. Selon le gestionnaire Enedis, jusqu'à 1,2 million de foyers ont été simultanément privés de courant en raison d'arbres tombés sur les lignes électriques, de pylônes de câbles arrachés, 1,2 million de foyers, donc c'est plus encore de personnes bien sûr, hein, privés d'électricité, pointant une fois encore la nécessité écrite Libération de revoir le réseau de transport d'électricité pour l'adapter dans la mesure du possible au risque climatique. Donc on parle de là de l'enfouissement des lignes électriques. Dans une note d'analyse publiée l'an dernier, France Stratégie, qui est l'organisme d'études et de prospectives qui est sous l'égide de Matignon, appelait à accélérer la politique d'ensevelissement du réseau électrique, en priorité sur les littoraux et les zones boisées. On verra que ça coûte un petit peu cher, ça d'ailleurs, je crois que c'est le Parisien qui en parle, on va voir ça dans un instant. Cet Irlandais, chaque pays a une liste de prénoms et la tempête prend... Ah, c'est intéressant. Il y a Erantero 33 qui nous explique à propos de Kiaran. C'est Irlandais, en gros, chaque pays a une liste de prénoms et la tempête prend le prénom du pays le plus ciblé, ok, le plus touché, ok. Ok. Ah, il y a Stiofan qui nous précise qu'on dit même Kiran et qu'on ne prononce pas le A. Oh, on ne va pas en sortir. Le Parisien consacrait également ce vendredi matin sa une à cette tempête. Le défi de la grande panne électrique, jeudi soir, donc c'était hier soir, quelques 680 000 foyers étaient encore plongés dans le noir, principalement dans l'ouest, en Bretagne et en Normandie, où on en est des foyers privés d'électricité. Cherchons une info récente. Je tape comme une mule sur mon clavier, j'adore. Alors, 115 000, j'ai un article de France Bleu qui nous donne 115 000 foyers d'électricité. C'était à 8h42 ce matin. Voilà. Donc, c'est quand même en passe d'être résorbé cette histoire. Hein. Ah voilà, alors c'est drôle, j'ai un chiffre qui est un peu plus important. Il y a Ouest France qui nous dit que ce vendredi à 19h, donc c'est là 227 300 clients étaient encore privés d'électricité. Voilà, rien que pour la Bretagne, donc c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. À 19h ce vendredi, 227 300 clients. Source Enedis, sur l'ensemble du territoire à ce stade, ce sont 875 000 foyers impactés par la tempête qui ont été réalimentés. Ok, donc encore beaucoup. À 19h vendredi. Ok. Donc ça, c'est le dernier chiffre. Toc. Ça, c'est la Bretagne, d'accord, ok. Ok, et on a le chiffre pour la Normandie, là. Hop. Et on a encore, manifestement, la source ici, France Live, 79 000 foyers, ce vendredi soir, à l'heure où on parle, toujours privé d'électricité en Normandie. Ok. Donc voilà pour les derniers chiffres. On voit que la situation n'est pas réglée. Je remercie Fabien pour le 17e mois d'abonnement. Alors, lisons le Parisien, qui, comme Libération finalement, Sarah, bonne soirée à toi, nous dit que le pire a été évité. Donc voilà, parfois dans l'actualité, il y a des motifs de satisfaction qui sont assez rares, donc profitons-en. Les leçons tirées des précédentes tempêtes permettent d'envisager un retour à la normale rapidement. Qu'écrivait le Parisien ce matin à ce propos? La tempête a encore une fois démontré la fragilité de notre réseau électrique. Tôt au jeudi matin, au plus fort de l'épisode, donc 1,2 million de foyers français étaient privés d'électricité. Donc ça, c'est les derniers chiffres qu'on vient d'évoquer. Ces 24 dernières années, l'enfouissement du réseau électrique a progressé d'environ 1% par an, donc c'est pas très rapide, avec une priorité donnée aux lignes situées sur les littoraux et dans les zones boisées. Bon, là, on était pourtant sur le littoral en Bretagne, donc manifestement, il y a encore une partie importante du réseau électrique dans ces régions qui n'est pas enfouie. Aujourd'hui, sur les quelques 1,4 million de kilomètres du réseau de distribution géré par Enedis, un peu plus de 50% est sous terre aujourd'hui. Mais si un enfouissement pour la liaison plus important des lignes aurait évité une coupure de courant dans nombre de foyers, son coût estimé à 100 milliards d'euros aurait sans doute eu des conséquences sur le porte-monnaie des Français. Donc cet enfouissement a un coût. Enfouir et surdimensionner le réseau nécessiterait davantage d'argent, de matériel et impliquerait une maintenance des câbles plus complexe. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà, c'est la question du coût en fait qui est posée ici. Voilà. Comme vous êtes plusieurs à le souligner, comme le dit Dom38, enfouir les lignes, c'est long, c'est difficile, c'est coûteux, mais c'est l'avenir. Donc voilà, je crois que c'était les articles que je vous ai mis de côté sur la tempête. Sur la tempête, est-ce que vous vouliez ajouter autre chose? Et après, on va partir sur le Proche-Orient. On t'envoie plein de force, Colanon. Je sais pas si vous voulez le message de Colanon, mais on t'envoie plein de force. Nico Manga, question à la con, c'est pas une question à la con. Pourquoi on ne coupe pas les arbres à côté d'un pylône ou d'un truc électrique? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Bonne question. Ah, on peut ajouter qu'une nouvelle tempête arrive. Alors oui, j'ai vu ça. C'est pas la Domingos. Attends, j'ai vu Domingo qui tweetait là-dessus aujourd'hui. Il n'y a pas une tempête qui arrive, la Domingos. C'est ça? C'est ça? Voilà. Ça fait un peu pizza, hein? Ça fait un peu de Domino's pizza, non? Ok, France Info, il y a 4 heures. Bon, qu'est-ce que PA... La question que je me pose, c'est qu'est-ce que PA a à voir avec tout ça, quoi? On va l'appeler la PA, si vous voulez, hein? Alors, je me permets de plaisanter, parce que même lui a fait un tweet là-dessus. Après, Caran, je ne sais plus comment on dit, Caran, Domingos, que l'on sait de la nouvelle tempête qui va toucher la France samedi. Ok, c'est demain. C'est surtout le centre du pays cette fois. Des rafales de 100 km/h sont attendues. Ouais, oh, petit joueur, 100 km/h. Domingos va succéder à Caran. Donc samedi, ça vient toujours du large de l'Irlande. Moins intense que la précédente. Et c'est pas les mêmes régions. Alors Météo France nous informe que certains départements de la façade atlantique quand même, mais c'est plus au sud, autour de la Vendée, du Poitou-Charentes, seront probablement placés en vigilance orange au vent. Peut-être une vigilance orange vague submersion pour les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, mais la Corse du Sud. Okay. Ouais, donc ce n'est pas les mêmes départements qui sont concernés. Et on a des rafales de vent attendues jusqu'à 100 km/h dans les terres, 130 sur les côtes. Donc c'est quand même beaucoup moins violent. Ah ben on voit ici en rouge les zones qui pourraient être touchées. Ok. Beaucoup de pluie jusqu'à dimanche. Les vents tempétueux de Domingos vont provoquer une forte houle. Ok, donc effectivement il y a une nouvelle tempête qui arrive. Bon, je vois que certains sont dans les régions concernées d'ailleurs. Ouais. Vous me parlez beaucoup de l'Italie, c'est intéressant, vous voyez. Vous me parlez beaucoup de l'Italie qui manifestement est touchée par la tempête Caran. Ouais, il y a un article de France Info qui a 6 heures. L'Italie durement touchée, effectivement. Par la tempête. 5 personnes mortes en Toscane après le passage de la tempête. Les rues de nombreux villages transformées en torrents d'eau et de boue. 3 hôpitaux inondés. Le trafic des trains perturbé. L'alerte est toujours en cours. Ok, effectivement. Donc l'Italie a été plus durement touchée que nous encore par cette même tempête. Allez, je vous lis un petit peu et puis on enchaîne avec le Proche-Orient. Non, laissez, il y a une personne qui est un petit peu hors sujet là, mais laissez, je pense que c'est pas grave. Il y a des gens qui confondent Twitter et Twitch et c'est pas grave. Il faut pas forcément bannir à tout va. J'ai vu le commentaire, c'est pas grave. C'est vendredi soir et les gens qui ont des semaines difficiles et qui à un moment viennent, qui ont besoin de. Il faut prendre les gens par le col, quoi qu'il arrive, et puis quoi qu'ils aient vraiment dit, et sans vraiment chercher, c'est pas grave. Il faut pas se prendre la tête avec ça. Je suis sûr que la personne va faire ses propres recherches, va réfléchir, va vraiment chercher peut-être des articles, va réfléchir pour essayer de comprendre par elle-même. On va pas expliquer tout aux gens en permanence. Il faut faire confiance au cerveau humain. Voilà. Donc laissez tranquille cette personne et puis invitons-la juste à faire des recherches un peu toute seule et pas peut-être se fier à un tweet qu'elle ou il a lu un jour. Quoi. Voilà. Peace. Bon, on part sur le Proche-Orient en parlant de tension. Hein, on y va. Florian à 50, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Merci pour le soutien. Allez, let's go. Proche-Orient, c'est important. On n'a pas fini d'en parler et il faut en parler. D'abord, plusieurs articles ce matin, dans la presse de ce matin, dans Libération, dans Le Figaro, des journaux qui ont des lignes éditoriales assez différentes et pourtant veulent nous parler des enfants palestiniens parce que ce qui se passe autour des enfants palestiniens est innommable. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut écrire là-dessus et pourtant c'est impossible de trouver les mots justes pour décrire ce qui se passe. Voilà, et on va en parler, on va essayer d'en parler. Les enfants, rien que cette phrase ne devrait pas pouvoir exister. On est en 2023. Combien de millénaires d'histoire pour en arriver là? Les enfants en première ligne de la guerre. À quel moment pouvons-nous, en tant qu'humains, parler de civilisation? Quand, en 2023, en novembre 2023, on peut encore lire ces mots, les enfants en première ligne de la guerre. Voilà. Tout est dit. Nous ne serons pas une humanité tant qu'en fait l'homme sera capable de se comporter de la sorte. Depuis le 7 octobre, plus de 3700 mineurs sont morts dans la bande de Gaza. Rien que ça. Depuis le 7 octobre, plus de 3700 mineurs sont morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. Les ONG craignent que ce nombre explose en raison de la crise humanitaire. Ce chiffre, il est déjà fou et il va sans doute s'alourdir énormément. Parmi les rares images qui parviennent encore du territoire assiégé, écrit Libération, nombre d'entre elles montrent les corps ensanglantés de mineurs. Ou de Gazaouis, serrant dans leurs bras des sacs mortuaires de petite taille. Parmi les 9000 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, plus de 3700 sont des enfants. Plus de 40% des victimes sont des enfants. La source, je viens de la donner. Ces chiffres impossibles à vérifier. Vous savez, avant de partir dans les débats sur le chat, vous n'êtes peut-être pas des habitués de ce stream, mais le Proche-Orient en parle tous les jours depuis des semaines. Et vous savez, ici, on se penche sur les errements, sur les fautes des deux camps, des crimes commis par les deux camps, mais qu'à un moment, dans une phrase ne peut pas tout résumer et qu'il faut lire l'ensemble des articles que je vous lis pour avoir une lecture globale de ce que je vous propose. Et pas vous arrêter sur une phrase, un article. Ça fait des semaines que je vous lis des choses là-dessus. Les habitués savent qu'ici, on dénonce les crimes commis par les deux camps. Donc ne commencez pas avec le débat sur les sources. Les sources, je vous les donne. Et Libé écrit d'ailleurs, ces chiffres sont impossibles à vérifier. Mais sont généralement jugés crédibles par des organisations internationales comme l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est l'OMS, ou encore Amnesty International. L'ONG Save the Children affirme que nombre d'enfants le nombre d'enfants tués par les bombardements israéliens dans l'enclave a dépassé le bilan annuel d'enfants tués dans les zones de conflit depuis 2019. Il y a plus d'enfants tués à Gaza, là, depuis quelques jours, que le nombre annuel d'enfants tués. Dans les zones de conflit depuis 2019. Alors que les enfants représentent environ la moitié des 2,3 millions de Gazaouis, donc enfants, il faut comprendre, mineurs, moins de 18 ans, le risque, attention, c'est pas terminé, qu'ils meurent des suites de leurs blessures n'a jamais été aussi élevé, pointe l'organisation. Selon l'ONU, environ un tiers des hôpitaux ne sont plus opérationnels à cause des coupures d'électricité et le blocus total imposé par Israël à la bande de Gaza, bloquant l'acheminement de carburant et de médicaments. On verra d'ailleurs tout à l'heure pourquoi Israël empêche le carburant d'arriver jusqu'à Gaza pour une raison de conflit, en fait. Vous verrez, c'est une histoire assez étonnante de fourniture d'oxygène aux tunnels. Hein, puisque pour ça, il faut des groupes électrogènes. Les tunnels sont de plus en plus profonds, des tunnels où s'abritent notamment les combattants du Hamas, et que sans carburant, eh bien, il n'y a plus d'oxygène dans les tunnels. Vous verrez, c'est pas par hasard que le carburant n'arrive plus à Gaza. Déclaration du porte-parole de l'UNICEF qui s'appelle James Elder qui dit « Gaza est devenu un cimetière pour des milliers d'enfants ». D'après Médecins sans frontières, des enfants ont dû être amputés sans anesthésie en raison des graves pénuries. Je ne vous relis pas cette phrase tellement elle est, vous l'avez sous les yeux. La baisse des réserves de carburant pour les générateurs des centres de santé met aussi en danger les nourrissons prématurés, placés dans les couveuses dont les vies dépendent du flux constant d'électricité. L'UNICEF estime à 120 le nombre de bébés dans ce cas et dont la vie est menacée. Il ne s'agit pas dans cet article de souligner les crimes commis uniquement par une des parties. La presse française, depuis des semaines, se penche sur les responsabilités, les fautes, les crimes des deux camps. Mais là, on se penche sur la situation des enfants palestiniens. La situation des enfants palestiniens, c'est ça. La bande de Gaza est devenue un cimetière pour enfants. Cette citation est aussi dans le Figaro de ce matin. Les ONG, les médecins s'alarment d'actes interdits par le droit international dont les premières victimes sont les plus jeunes habitants de l'enclave palestinienne. Dans la guerre, puisque c'est une guerre, dans la guerre qui oppose Israël au Hamas, le sort des enfants est particulièrement alarmant. C'est le Figaro qui parle maintenant. On n'a jamais vu une escalade de violence dans la bande de Gaza qui a tant de faits de victimes parmi eux. Le nombre de morts est affolant. Gaza est devenu un cimetière pour enfants. C'est donc le porte-parole de l'UNICEF en Palestine qui le dit. L'UNICEF qui a dû rappeler dans un communiqué que même la guerre a des règles. Ça peut sembler étrange, mais il y a un droit de la guerre. La guerre s'est encadrée. C'est pour ça qu'on parle de crimes de guerre parfois. Même la guerre a des règles, rappelle l'UNICEF. Le poids de cette escalade de violence pèsera sur les enfants et sur les communautés pendant des générations. Les enfants palestiniens meurent à un rythme alarmant et leurs droits élémentaires sont déniés, poursuit l'UNICEF. L'UNICEF qui rappelle que les hôpitaux et les écoles doivent être protégés des bombardements et qu'ils ne doivent pas être utilisés à des fins militaires. Ces institutions ne sont pourtant pas épargnées par la guerre. Jeudi, une école de l'UNRWA, qui est l'organe des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens, aurait été encore bombardée à Jabalia, on va en parler ce soir, un camp de réfugiés proche de la ville de Gaza qui est soumis à des frappes intenses ces derniers jours. Le comité des Nations Unies, quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que fait l'ONU tout à l'heure dans le chat ? Le comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant alerte lui aussi pour les graves atteintes aux droits de l'homme dans la bande de Gaza. Il n'y a pas de vainqueur dans une guerre où des milliers d'enfants sont tués, affirme un communiqué de l'ONU. Voilà pour ces deux articles sur la situation des enfants de Gaza. On va se pencher maintenant sur le conflit et sur les opérations en cours du côté d'Israël et de ce piège dont parle le monde. On verra pourquoi le monde parle du piège de la bande de Gaza et de l'impossible stratégie de l'armée israélienne. Mais je vous lis d'abord un petit peu sur les enfants de Gaza, puisque je suis là pour échanger avec vous et répondre à vos questions. MP12, merci pour le 11e mois. Floriana50, merci pour le 3e mois. Héphaïstos, merci pour le 27e mois. Oui, demain stream à 10h en direct de la Paris Games Week SDF. Inconnu le rappelle, et on va en parler ce soir encore, une nouvelle fois, la meilleure solution serait d'appliquer la solution dite des deux États. Mais on va se pencher sur ça. Alors, c'est très intéressant d'essayer de penser l'après aussi. Les Américains, par exemple, Joe Biden, met la pression sur Israël en ce moment pour dire à l'État hébreu, et notamment à Netanyahou, qu'il faut déjà penser à l'après, parce que sinon ce conflit va durer encore des siècles et des siècles et provoquer toujours plus de victimes, et notamment de civils. Donc il faut penser à l'après. Voilà. Est-ce que l'après, c'est enfin cette solution des deux États, cette solution des deux États israéliens et palestiniens que les extrêmes des deux côtés ont empêché? Est-ce que ce drame, ce qui se passe aujourd'hui, le drame, les attaques du Hamas qui sont dramatiques, puis la riposte israélienne qui est également dramatique, est-ce que ce drame que nous vivons va permettre de remettre sur le devant de la scène cette solution des deux États israéliens et palestiniens? Ça, c'est l'espoir des plus optimistes. Je ne sais pas, il faudrait se projeter dans 6 mois, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, pour voir si les horreurs qui sont en train de se passer aujourd'hui vont déboucher sur quelque chose qui pourrait ressembler à une coexistence pacifique entre deux États. Comment Israël engage la bataille de Gaza? Penchons-nous un petit peu sur ce que est en train de mener Israël dans la bande de Gaza. Officiellement, le gouvernement israélien ne parle pas de grande offensive, il parle d'incursion. Dans les faits, l'invasion de la bande de Gaza se poursuit lentement, mais sûrement, 7 jours après le début des manœuvres terrestres, malgré un contrôle étroit de l'information, les journalistes ne sont toujours pas autorisés à rentrer dans cette zone. On commence à y voir plus clair, écrit, c'est la croix, je crois. Oui, c'est la croix, écrit la croix, dans les opérations qui sont actuellement menées par Tsahal, c'est l'armée israélienne, en territoire palestinien. La 162e division blindée à Plada est en voie d'achever l'encerclement de la ville de Gaza. À travers la pénétration d'unités au sud, à l'ouest et au nord-est de la localité, nous sommes aux portes de Gazaville, dit un général israélien. L'entrée de l'infanterie est précédée de plus de 11 000 frappes destructrices par l'aviation et l'artillerie dès le 7 octobre, ça vous le savez, 11 000 frappes. Date de l'attaque contre Israël. Les opérations actuelles ne ressemblent pas, je vous le disais, à une invasion massive, mais à des raids conduits par des groupements tactiques de 100 à 200 militaires, jugés sur des chars, des véhicules blindés, des engins de déminage qui se relaient au sein d'un vivier de quelques 20 000 fantassins des troupes d'assaut. Voilà à quoi ressemblent les opérations israéliennes à ce jour. Ce type de terrain, donc vous le savez, la bande de Gaza, hein, ce milieu urbain extrêmement dense avec tous ses souterrains, rebat un peu les cartes entre deux adversaires de puissance inégale, permettant aux plus faibles de se mouvoir face à une armée autrement mieux équipée, estimée à 20 000 dont 7 000 professionnels aguerris. Les combattants du Hamas, eux, jouent de leur connaissance du terrain et de leur capacité à se fondre parmi les civils pour mieux surprendre leurs adversaires avec leur équipement léger. Sur internet circule notamment, vous l'avez peut-être vu, l'image d'un fantassin en survêtement qui sort d'un des fameux tunnels puis tirer immédiatement sur un véhicule blindé à l'aide d'un lance-grenade RPG d'origine soviétique. Les autorités israéliennes, qui clament leur volonté d'en finir avec le Hamas, vous le savez depuis les attentats du 7, préparent leur opinion publique à quoi? À une guerre longue. Ce n'est pas une guerre éclair. Ce mouvement sera lent pour être sûr que nous tuons tous les terroristes, que nous nettoyons tous les tunnels, dit un autre général israélien. Cette nouvelle guerre pourrait durer plusieurs mois, pour ceux qui se posent la question. Alors, la Croix nous rappelle un exemple qui est celui du siège de Mossoul, on va en Irak, où l'armée irakienne avait ainsi bataillé plus de 250 jours avant d'anéantir les djihadistes à Mossoul, 2016-2017, avec l'aide des forces spéciales américaines et françaises et de l'aviation occidentale. Durant le siège, les combats face aux terroristes qui refusaient de se rendre à Mossoul, donc, avaient coûté la vie à 1200 soldats irakiens. À Gaza, les experts s'attendent à ce que l'armée israélienne compte de nombreux tués dans ses rangs durant l'offensive. Déjà, 18 militaires d'Utsal ont perdu la vie ces derniers jours. L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir déjà tué des dizaines de combattants du Hamas, c'est ce qu'affirme Tsahal, ainsi que plusieurs commandants, lors d'une frappe, cette fameuse frappe dont on va parler ce soir aussi, qui aurait coûté la vie à des dizaines de civils dans un camp de réfugiés, le camp de Jabalia. Ce bombardement meurtrier illustre, et ça le monde va nous en parler dans un instant, ce bombardement meurtrier illustre la difficulté d'une offensive conduite en territoire urbain. Au regard des sièges militaires contemporains, le bilan humain et matériel est très lourd. Le Hamas parle déjà de plus de 9000 tués, et un bilan qui devrait encore s'alourdir au sein de la population non combattante, disons les termes, au sein des civils. Les États-Unis rappellent actuellement à Israël la nécessité de réfléchir à une solution à plus long terme, conscient des limites de la stratégie actuelle. Cette limite, on va l'évoquer dans un instant. Tsahal peut faire très mal au Hamas, certes, mais ils ne réussiront pas à détruire l'organisation, avertit un militaire d'un pays membre de l'OTAN. Ils auront la capacité de se reconstituer ailleurs. Daesh, par exemple, n'a pas disparu après l'assaut mené contre Mossoul. Penchons-nous sur ce dossier du Monde que je trouve très intéressant pour comprendre ce qui se passe actuellement militairement dans la bande de Gaza. Le Monde qui parle de Gaza comme d'un piège du Hamas. Le Monde qui évoque une impossible stratégie de l'armée israélienne. Lisons. Allons justement dans ce camp de réfugiés. De Jabalia, c'est dans le nord de la bande de Gaza. Mercredi, à Jabalia, tout était, raconte l'envoyé spécial du Monde dans la région, tout était noyé dans le gris. Ce gris des bâtiments en miettes dans lesquels sont pulvérisées des vies sous l'effet du puissant bombardement intervenu la veille. Le Hamas a annoncé jeudi matin la mort de 195 personnes. Bilan impossible à vérifier de sources indépendantes. Hein. Il ne s'agit pas là d'une erreur, d'un tir malencontreux de proportions dantesques, mais le produit d'une décision qui a été assumée par l'armée israélienne. L'armée israélienne qui assure qu'il y avait sous le cratère la cible militaire des bombes utilisées, qui sont justement des bombes qui essayent qui sont censées pénétrer dans le sol, des objectifs souterrains. Il s'agit d'un commandant du Hamas, Ibrahim Bieri, qui est à la tête de la brigade de Jabalia, et qui serait, selon l'armée israélienne, l'un des acteurs clés de l'opération menée par son mouvement en territoire israélien le 7 octobre, qui a conduit à la mort de 1400 personnes. Que dit l'armée israélienne ? On sait qu'il y a eu beaucoup de morts civiles dans ce camp de Jabalia. L'armée israélienne ne dit pas que le bombardement qui a tué ces civils est une erreur. L'armée israélienne dit... sous les bâtiments qui ont été détruits, il y avait des tunnels où se cachaient des combattants du Hamas, parmi lesquels des responsables des attentats du 7 octobre. Donc on a tapé parce qu'on voulait taper là. Le bombardement, écrit Le Monde, avait pour but de traiter cette menace en éliminant le commandant et ses combattants. L'effondrement, écoutez cette phrase, l'effondrement général des habitations a été considéré comme le prix à payer. Si du point de vue opérationnel, l'opération est une réussite, elle constitue aussi une défaite, à de nombreux égards, pour des raisons que vous imaginez, je pense. Question posée par Le Monde. Depuis le début de l'offensive, combien de responsables militaires et civils du Hamas ont été mis hors d'état de nuire ? Une source israélienne évalue leur nombre entre 12 et 15. Une source israélienne évalue le nombre de responsables du Hamas tués depuis le début des bombardements entre 12 et 15. Et 15. Mis bout à bout, les noms rendus publics par les autorités israéliennes ne donnent pas l'impression que le mouvement pour l'instant a été décapité. Des estimations de sources israéliennes situent le nombre de combattants tués dans une fourchette plus large, donc au-delà des chefs, de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'hommes. Dans le même temps, près de 9000 personnes, 8800, dont 3648, ont été tués depuis le 7 octobre dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, et on parle de 2000 personnes portées disparues par ailleurs. Une dizaine de chefs du Hamas tués, quelques dizaines, peut-être quelques centaines de combattants du Hamas tués, et près de 9000 civils, dont près de 4000 enfants tués. Voilà. Le coût humain pour la population civile des frappes visant le Hamas risque de demeurer l'un des marqueurs de ce conflit. D'autant que comparé aux estimations du nombre total de combattants du Hamas qui pourrait s'établir aux environs de 30 000 hommes, les pertes infligées au groupe islamiste ne constituent pas à ce jour un impact numérique décisif. Achernar le rappelle, chiffre du Hamas, je ne cesse de le rappeler, mais chiffres pour les morts d'enfants qui sont confirmées, jugées cohérentes par des ONG comme Amnesty International ou encore l'Organisation Mondiale de la Santé. Et ça, je le dis aussi, ce sont d'autres sources. Voilà. Voilà pourquoi le monde parle de l'impossible stratégie de l'armée israélienne, puisque cette stratégie, elle a un coût humain, civil, gigantesque. Poursuivons justement l'analyse du monde là-dessus. Les responsables de l'armée israélienne semblent considérer qu'il se trouve, écoutez bien, à ce stade, à un choix binaire. Il n'y aurait pas d'alternative qu'entre une action décisive au milieu d'un terrain où sont enchevêtrées cibles militaires et groupes de civils et la paralysie. C'est soit on tape et on tue des civils, soit on ne fait rien. Voilà. C'est comme ça que l'armée israélienne voit les choses aujourd'hui. Deux mauvaises solutions, voilà, et ça s'appelle un piège, et voilà pourquoi le monde parle du piège tendu par le Hamas. Cette situation n'est pas le fruit du hasard d'ailleurs, explique le journal. Le Hamas avait réuni avec soin les éléments de ce piège. Le groupe islamiste a organisé au fil du temps le terrain de cette confrontation d'ampleur avec l'armée israélienne. Dispositif qui repose sur l'organisation d'un réseau de tunnels devenu de plus en plus sophistiqué. D'un point de vue tactique, alors qu'il était vulnérable en surface, l'appareil militaire et logistique du Hamas s'est enterré à des profondeurs de plus en plus importantes. Avec un réseau de tunnels de plus en plus sophistiqué, déconduit des installations de cette ville, sous la ville s'enchevêtrent désormais sur plusieurs niveaux. Les plus profonds de ces tunnels descendent jusqu'à 60 mètres de profondeur. Certains conduits débouchent dans la mer, comme l'a montré une tentative récente d'attaque amphibie du groupe islamiste. D'autres bouchent de sortie en grand nombre, permettent de surgir à l'arrière des lignes israéliennes pour les prendre à revers. Ce réseau qui court sous Gaza permet à la fois la circulation, le stockage d'armes et la protection des combattants. Il a aussi pour particularité d'être construit dans des zones, sous des zones habitées. S'y attaquer porte en soi un dilemme constant, que le monde a déjà évoqué, soit frapper au risque de tuer des civils, soit ne pas taper et épargner les structures de commandement. Pour autant, la situation de piège dans laquelle se retrouve l'armée israélienne n'est peut-être pas complètement gelée, explique le monde. D'une part, le réseau des tunnels, s'il est en partie endommagé, ce qui est sans doute déjà le cas, peut empêcher la coordination entre les différents groupes du Hamas, puisque les conduits sont équipés de moyens de communication, mais la section des câbles qui courent sur leurs parois aurait pour effet d'isoler les combattants, de faire cesser leur coordination. De plus, je vous parlais d'oxygène tout à l'heure. Dans un réseau en profondeur, jusqu'à des tunnels jusqu'à 60 mètres de profondeur, l'alimentation en oxygène est vitale, bien sûr. Sans renouvellement de l'air, les combattants terrés dans ces conduits seraient peu à peu asphyxiés. Or, à mesure que le réseau s'est étendu, les besoins pour y renouveler l'air se sont accrus. Techniquement, il faut des moteurs pour alimenter en air, en oxygène, ces tunnels, et donc du carburant pour les faire fonctionner. Le Hamas a stocké des quantités importantes de carburant en prévision de cette guerre d'aujourd'hui, de cette confrontation. Mais cette capacité n'est pas infinie. Si le carburant devait faire défaut et le système d'aération s'arrêter, le résultat serait simple. Les combattants seraient obligés de sortir comme des lapins et nous les attendons, a déclaré un militaire israélien. C'est la raison pour laquelle, actuellement, Israël s'oppose à toute livraison de carburant dans l'enclave. Le problème, c'est que ce carburant, les hôpitaux de Gaza en ont aussi besoin. Voilà. Pour assurer leurs besoins en électricité, par exemple, notamment pour les couveuses des bébés. Voilà pour ce point que je trouve assez complet de la situation militaire aujourd'hui dans la bande de Gaza. Je vous lis maintenant. Oui, on en a parlé de l'Égypte qui ne veut pas accueillir les Palestiniens ni un mot. Ça fait plus de trois semaines qu'on suit ce conflit, on en a déjà parlé. Oui. Équipoise, je ne comprends pas ce que tu dis. L'alternative est de laisser partir les civils de Gaza et rentrer chez eux dans l'actuel Israël ? rentrer chez eux. Je comprends ce que tu veux dire. Ils sont chez eux, les civils de Gaza. Là. C'est chez eux, là. Pourquoi tu veux qu'ils quittent et de rentrer chez eux dans l'actuel Israël? Je comprends pas ce que tu dis. C'est chez eux. D'ailleurs, il serait temps de leur donner un état, d'ailleurs. Oh, pas de souci. Il y a un connu qui me dit « Bon courage Samuel, ce sujet est sensible. » Ça fait 3 ans ici qu'on lit les journaux sur des sujets tous plus sensibles les uns que les autres. On a l'habitude. On a un chat qui parfois s'anime un peu, et je le comprends tout à fait sur des sujets aussi compliqués que ça. En soi, ça ne me dérange pas, du moment que les gens ont un minimum de respect les uns par rapport aux autres dans ce chat. Après, les modos veillent au grain. On en parle du conflit ukrainien. Franck, on ne l'a pas oublié ici, on en parle régulièrement. On en parle régulièrement. Tu peux reprocher à certains médias de l'avoir oublié, mais ici, on en parle. Après, il faut venir tous les jours. Tu peux pas juger une chaîne sur 2 minutes de stream quand, depuis 3 ans, on fait des revues de presse de 3 heures d'actualité aussi souvent que possible. Quoi. Je vous lis. Bonne question de Valar Rocard. Si le Hamas a des réserves de carburant, pourquoi n'alimente-t-il pas les hôpitaux? C'est une bonne question. Je pense que pour les combattants du Hamas, la capacité offensive ou défensive de leurs combattants est prioritaire sur les besoins des civils. Il y a eu des déclarations récentes de responsables du Hamas qui confirment ce que je vous dis là. Franck, tu parlais des médias. Alors, quelle était ta question? Attends, je reviens sur tes messages, Franck, pour bien comprendre. Oui. Non, mais en fait, les médias, les habitués de cette chaîne le savent, ça ne veut rien dire. Moi, je ne lis pas les médias, hein, je ne regarde pas les médias. Moi, je lis des journaux dont j'estime que ce sont des médias de qualité, donc je vous lis autant que faire se peut tous les jours Le Monde, Le Parisien, Libération, La Croix, L'Opinion, Les Échos, L'Humanité. Et j'en passe. Ce sont les médias que moi je lis parce que j'estime que dans un monde où tout va trop vite et de plus en plus vite, il faut prendre le temps de comprendre l'actualité, que cette presse écrite est un outil, qui est un bon outil justement pour prendre le temps et aller au-delà de l'émotion des images. Voilà. Alors après, si pour vous les médias c'est Internet ou c'est les chaînes d'info, moi je ne défends pas les médias. Je vous dis que selon moi, la meilleure source d'information dans notre pays actuellement est plutôt du côté de la presse écrite, puisque c'est un média qui a fait appel à votre réflexion, à votre intelligence. C'est une source multiple avec différentes lignes éditoriales. Vous pouvez changer les journaux tous les jours pour voir justement que les regards ne sont pas les mêmes. Voilà. Personnellement, je ne m'informe pas à la télévision, je ne m'informe pas sur Internet non plus. Je suis passionné d'information et je suis journaliste depuis 30 ans. Si vous creusez un peu, il y a peut-être une raison. Donc, je ne suis pas là pour défendre les médias. Si vous voulez vous informer de façon qualitative, passez plusieurs heures par jour à lire les journaux et à changer de journal régulièrement, et aussi à écouter les médias internationaux et à changer de prisme, de regard. Voilà. Voilà, j'ai pris il y a 2-3 jours, j'ai monté dans un taxi d'un monsieur qui était musulman et qui écoutait une radio qui donnait énormément et principalement la parole à des gens qui étaient pro-palestiniens. J'écoutais ça avec beaucoup d'intérêt pendant tout le trajet, et il y avait des choses qui étaient très intéressantes qui étaient dites. Et puis on a fini par échanger ensemble, et ce monsieur qui était clairement pro-palestinien m'a dit à la fin du voyage, je pense que je vais essayer de résumer sa pensée. Mais en gros, il m'a dit, on en est là parce que à un drame, on a répondu par une injustice. Et c'est un des trucs les plus intelligents que j'ai entendu sur ce truc. Un drame, l'antisémitisme, la Shoah, les pogroms, le fait qu'à un moment, les Juifs, une partie des Juifs, une partie de la communauté internationale a estimé qu'il fallait donner un État, un pays aux Juifs du monde entier pour se protéger de l'antisémitisme et des pogroms et de la Shoah et des millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. À ce drame a répondu une injustice. On a créé un État d'Israël à un endroit qui était un endroit particulier. On a chassé des Palestiniens, des Arabes de leur terre. Voilà, en créant, à l'origine, il était prévu de créer deux États, mais un État qui était déjà plus grand que l'autre, l'État d'Israël, et un État palestinien qui était plus petit, alors que la population qu'il devait accueillir était pourtant plus importante. Donc, un truc qui partait mal, voilà, un truc qui a fait un petit peu à la va-vite, et qui a heurté beaucoup de sensibilité dans la région, ce qui a provoqué les guerres israélo-arabes. Voilà. Et donc, ce sujet est éminemment compliqué, et pourtant, cette phrase, elle était extrêmement pertinente. À un drame, il parlait de la condition des Juifs, cible d'antisémitisme, de pogrom et de la Shoah. À ce drame, on a répondu par une injustice qui a été faite aux Arabes et aux Palestiniens. Mais c'est juste, c'est exactement ça. Voilà. Les deux camps ont raison et les deux camps ont tort dans cette histoire. Bien sûr que ça n'est pas la terre des Juifs. Arrêtez de dire, c'est fou ça, hein. Benfica, enfin, connaît ton histoire, c'est incroyable. C'est à cause de propos comme les tiens qu'il y a des guerres dans le monde. C'est les gens qui sont persuadés de détenir la vérité. C'est formidable. Pardon, je vais être super cash, Benfica 39. C'est à cause de propos comme les tiens qu'il y a des conflits. Les guerres sont provoquées par des gens qui sont persuadés d'avoir raison. Qui pensent que c'est toujours le camp d'en face qui a tort. C'est à cause de propos comme les tiens qu'il y a des conflits depuis la nuit des temps. C'est fou ça. Ce sont les persuadés de chaque camp, ce sont les extrémistes de chaque camp qui n'ont pas voulu du processus de paix. Ce sont ceux qui ont déclaré que c'était la terre d'Israël et la terre de personne d'autre. Ce sont ceux qui ont déclaré que c'était la terre des Palestiniens et des Arabes et personne d'autre. Ce sont ces gens-là qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Ce sont des propos comme les tiens. Ça me met vraiment en colère. C'est fou ça. Les persuadés de tous bords, les extrémistes de tous bords, c'est de votre faute tout ça. Plus vous êtes convaincus, plus vous avez des certitudes, plus vous êtes dangereux pour les autres. Pour ceux qui ne pensent pas comme vous. Hein. Les extrémistes religieux, les extrémistes de n'importe quelle pensée, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, c'est vous les dangereux. Quand vous vous fermez à la discussion, quand vous vous fermez à l'échange, quand vous êtes persuadé que le mal est en face, et que votre combat il est juste et qu'il est pur, c'est là que vous devenez dangereux. C'est fou ça. Pardon de cet énervement. Je m'en excuse. Alors pour ceux qui pensent que tout est noir et blanc, ne lisez pas cet article. Là, nous avons donné la parole à des Israéliens qui étaient justement pour la paix, des Israéliens qui étaient pour la paix avec les Arabes et les Palestiniens, des Israéliens qui étaient pour le processus de paix et qui ont perdu ce combat politique puisqu'aujourd'hui, Israël est dirigé par un gouvernement d'extrême droite à sa tête, Benjamin Netanyahou. Voilà. C'est ce qu'appelle le monde, la gauche israélienne, le monde qui consacre un article au profond désarroi de la gauche israélienne aujourd'hui. Une partie des sympathisants de la cause palestinienne, et là on parle d'Israéliens, craignent que ne s'éloigne une solution politique au conflit. Dans chaque camp, il y a eu des partisans de la main tendue, de la paix, de vivre avec, non pas l'adversaire, mais avec l'autre, quoi. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont perdu, à cause de gens comme ceux que j'ai lus là tout à l'heure. Le rabbin, on parle d'un rabbin, Arik Asherman a été arrêté par l'armée israélienne au quatrième jour de la guerre, le 10 octobre, en Cisjordanie occupée. La justice lui a interdit à ce rabbin juif, la justice israélienne, hein, durant 2 semaines de se rendre dans les territoires. Écoutez cette histoire. Le 31 octobre, ce vieux militant contre l'occupation israélienne, et on parle d'un rabbin, arpentait de nouveau avec ses godillots et son bâton les collines qui s'étendent au sud d'Hébron. Qu'est-ce qu'il fait sur cette colline, ce vieux monsieur? Il y protège les bergers palestiniens des violences de colons israéliens. Ses concitoyens à lui, il dresse contre eux son grand corps sec. Depuis des décennies, c'est le combat d'une vie. Il a l'habitude de prendre des coups pour les autres, mais jamais aujourd'hui il ne s'est senti aussi seul. Après l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, qui sont des attentats terroristes, on va le rappeler, de jeunes camarades israéliens ont cessé de lui prêter main forte à ce rabbin. Ils ont été mobilisés par l'armée, ils portent le deuil d'amis ou de parents qui ont été tués dans les kibbutz qui étaient des kibbutz marqués à gauche, dans les entours de la bande de Gaza, parmi l'essentiel des victimes des attentats du Hamas. Le paradoxe, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient pour le processus de paix israélo aux Palestiniens, et des gens qui depuis toujours tendaient la main aux Arabes, c'est comme ça. Certains sont donc déboussolés, comme tout Israël. Une même rage les dévore. Quand on a perdu un fils, une mère, un père, hein, on peut, comme je le fais souvent, se draper dans les oripeaux de l'optimisme et de la bien-pensance, mais quand on perd quelqu'un de sa famille, quand on perd un proche, est-ce qu'on est encore en capacité de penser? Une même rage les dévore. D'autres ont peur des colons, qui déchaînent actuellement une violence inédite en Cisjordanie, je ne sais pas si vous le savez, profitant de la guerre à Gaza pour dépeupler des collines entières de leurs habitants. Parfois je me demande, dit ce rabbin, si les fanatiques des deux bords ne se rassemblent pas la nuit pour trouver ensemble les moyens de prolonger ce conflit. Comme ce sexagénaire, jamais la gauche israélienne n'a paru si fragile, si inaudible. Voilà 3 semaines que Lubna Massawa, par exemple, coupe ses liens sur les réseaux sociaux avec quantité d'anciens amis juifs dont les déclarations patriotiques et militaristes l'effraient. Cette palestinienne citoyenne d'Israël, comme 20% de la population du pays, originaire d'un village du Nord, naviguait avant-guerre au sein de cette gauche juive et arabe de Jérusalem. Elle estime que le Hamas a renversé le 7 octobre par ses attentats le schéma qui était bien établi dans son camp, qui fait de l'État israélien l'oppresseur des Palestiniens ses victimes et de belles âmes juives de gauche leurs sauveurs, défenseurs du droit et de la morale. Ils venaient, donc ces militants de gauche israéliens, chercher des enfants palestiniens au point de contrôle de l'armée aux frontières de la Cisjordanie pour leur faire prendre un bain de mer en Israël pour voir un médecin. Tout restait dans l'ordre tant que nous étions de bonnes victimes, hein, des Arabes reconnaissants, dit-elle, mais le 7 octobre, pour un jour, des Palestiniens ont combattu de cette horrible façon et cela a bouleversé leur certitude. Alors la jeune femme s'interroge aujourd'hui. L'industrie de la paix peut-elle survivre à cette crise? Elle juge frappée d'obsolescence cet écosystème d'ONG, de centres de réflexion, de fonds d'aide au développement financés par les États européens depuis les années 90 pour préserver la possibilité d'une solution au conflit et la naissance d'un État palestinien un jour à côté d'Israël. Tout ce que, en quoi je croyais s'est écroulé, dit-elle, l'Occident dit... On va rappeler qui c'est, hein, cette palestinienne citoyenne d'Israël. L'Occident, dit-elle, a montré un racisme pur. Il a affirmé en creux qu'une vie blanche a plus de valeur qu'une vie arabe, estime-t-elle, évoquant les premiers jours de la guerre, lorsque Washington et les Européens ont exprimé un soutien sans réserve à Israël. Voilà ce qu'elle pense, cette dame. Nous sommes au bord d'un abysse et nous pouvons encore tomber bien plus bas. Mais tout le monde comprend que nous ne pouvons pas revenir au statu quo, reprendre nos vies d'avant, dit un autre Israélien, Meron Rapoport. Voilà des années que ce cofondateur du mouvement israélo-palestinien, Une Terre pour Tous, expose à des diplomates occidentaux son rêve de confédération, alors c'est pas deux États séparés, lui son rêve c'était deux États, aux frontières ouvertes, aux institutions en partie communes, tenant compte de l'irrémédiable intrication des deux nations. Ces diplomates lui prêtent aujourd'hui une oreille plus attentive, alors que leur confiance en la capacité d'Israël à gérer seul le conflit a pris un rude coup. Washington presse le cabinet de guerre israélien de réfléchir au jour d'après à Gaza à une force d'interposition arabe qui pourrait reprendre le contrôle de l'enclave à la relance d'un processus de paix avec l'autorité palestinienne. Voilà. Est-ce que de ce que nous vivons aujourd'hui va sortir une relance du processus de paix israélo-palestinien? Pourquoi ne pas l'espérer? Darkstar 13012, merci pour le prime. Raka, merci pour le prime. Allez, je vous lis. Je lis un dernier commentaire et puis on va parler de football, enfin de la FIFA qui est sur le point d'accorder un mondial à l'Arabie Saoudite, si je ne dis pas de bêtises. Je lis le message de Daleb Curl, parce que je suis aussi ici pour lire des commentaires de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, sinon c'est pas drôle. Que des banalités, Samuel, il est temps d'accepter la complexité du monde. Donc, c'est pas parce que je ne pense pas comme toi que je nie la complexité du monde. Et de reconnaître les sources réelles de ce conflit inéluctable, conflit qu'on ne peut pas éviter. La paix est impossible, il l'a toujours été, il le sera toujours. Je pense que les gens ont dit exactement la même chose que toi à propos des guerres autrement plus meurtrières que se sont menées les Européens il y a quelques dizaines d'années. Je veux parler bien sûr des deux conflits mondiaux, des deux guerres mondiales, voilà. Entre frères européens, aujourd'hui avec nos voisins chez qui nous passons nos études en Erasmus et autres, avec lesquels nous vivons en harmonie et en paix dans un cadre qui s'appelle l'Union européenne, ce sont des gens que hier nous avons détestés, que nous avons tués, qui nous ont tués par millions. Et des gens à cette époque disaient que jamais on ne pourrait se réconcilier avec les Allemands, avec les Italiens. Et que sais-je, ça a duré des dizaines d'années, ça a duré des siècles. Il y a des gens comme toi qui ont dit que jamais la paix ne pourrait être trouvée, cette paix a été trouvée. Nous vivons en paix aujourd'hui avec ces gens dont les ancêtres ont commis des atrocités. Voilà. Évidemment, avec ce genre de réflexion, on est en conflit permanent avec tout le monde, quoi. Mathieu, 98, merci pour ce quatrième mois. Pives EDM, merci pour ce sixième mois. Pamploum, magnifique pseudo, merci pour ce soutien. J'aime bien cette idée que malgré le fait qu'on s'enflamme un peu dans le chat, et moi parfois aussi d'ailleurs, et je m'en excuse de m'enflammer aussi parfois à mon tour, qu'on puisse parler de tous ces sujets puisque rien ne serait pire que de ne pas en parler. Je préfère que nous nous énervions un peu ensemble sur ces sujets compliqués plutôt que de faire l'impasse et de ne pas en parler. Je vous exprime parfois mes points de vue sur ces sujets compliqués. Ce n'est que mon regard, ce n'est que mon visuel sur ces choses-là qui sont le fruit de mes réflexions, de mes lectures. Je peux être tout à fait dans l'erreur, je peux me tromper, vous avez peut-être raison, mais l'important, c'est d'en parler, de s'opposer nos arguments et de réfléchir ensemble à ce sujet. Et ce serait bien plus grave qu'on ne puisse pas le faire. Donc voilà, je suis content, même si c'est un peu animé, mais c'est même un petit peu tendu, voilà. Et c'est bien qu'on puisse malgré tout trouver un endroit pour en parler de façon horizontale et pas de manière verticale où les médias traditionnels vous donnent des infos et là vous êtes en mode totalement passif, ou à les accepter, ou à les refuser, mais pour en parler avec qui ? Voilà. Au moins ici, si vous avez des reproches à me faire sur la manière dont je présente des informations, qui est une activité humaine et faillible, et vous avez le droit, et au contraire, il faut le faire, de critiquer ma façon de faire, au moins vous pouvez le faire ici, et j'aime bien cette idée-là, j'aime bien cet espace. Merci. Donc merci à ceux qui sont là, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Merci d'être là, de partager ce moment. C'est cool. On en reparlera parce qu'il faut en parler et on en parlera tous les jours s'il faut, tant que ce dramatique sujet sera à la une de l'actualité. On parle de football, mais on ne parle pas d'un sujet léger pour autant. Alors, vous vous souvenez peut-être des tensions, des polémiques qui ont entouré le dernier mondial de football au Qatar. Eh bien, manifestement, bis repetita, puisque la FIFA serait sur le point, nous disent certains médias, d'accorder les mondiaux de football de 2034 à l'Arabie Saoudite. Il y avait un article passionnant que j'avais trouvé ce matin, puis je l'ai perdu, j'ai pas réussi à le retrouver, j'ai un peu honte. Mais j'ai trouvé un édito de Le Monde, du Monde, qui le résume. Mondial, les tours de passe-passe de la FIFA, c'est un édito qui est assez critique vis-à-vis de la FIFA. L'annonce, mardi, c'était cette semaine, par la Fédération Internationale de Football, donc c'est la FIFA, d'une unique candidature, celle de l'Arabie Saoudite, bon, ça va être simple du coup pour l'attribuer, pour accueillir la Coupe du Monde en 2034, pose de multiples questions sur le processus de désignation du pays hôte de l'un des événements sportifs les plus regardés sur la planète. Que Le Monde consacre son édito à ce sujet, ça veut dire que Le Monde trouve que c'est assez important, en général, le choix de l'édito du Monde est assez éclairant, quoi. Disons qu'il se penche sur des sujets qui en général sont assez importants. Donc on n'est pas sur un truc léger. La décision officielle est attendue fin 2024, donc rien n'est sûr, hein, attention, on va être prudent. Mais l'issue en paraît si évidente qu'elle relève davantage du fait accompli que de la compétition ouverte et transparente qu'elle devrait être. Le royaume saoudien se retrouve seul candidat après le retrait de l'Australie. Celui-ci a visiblement jugé que le tour était joué après la décision de l'Indonésie de soutenir l'Arabie saoudite plutôt que de faire équipe avec elle comme cela avait été envisagé. Depuis plusieurs années maintenant, la FIFA multiplie les décisions qui rendent ce processus de choix du pays organisateur de la Coupe du Monde de football de moins en moins clair et de plus en plus prédéterminé. Si l'Australie et l'Arabie saoudite passent... Alors là, c'est assez complexe, mais c'est passionnant. Si l'Australie et l'Arabie saoudite paraissaient être les seuls en lice, c'est parce que la FIFA a choisi le 4 octobre de réserver le mondial de 2034 à l'Asie-Océanie, dont fait partie le Moyen-Orient. L'instance ayant attribué la Coupe du Monde d'avant, de 2030, à un groupe de pays qui couvre seuls trois continents, bouleversant la tradition de rotation géographique. Vous suivez toujours ? L'Espagne, le Portugal, le Maroc vont donc se partager l'organisation de la compétition de 2030, mais il y aura trois matchs qui vont être joués en Argentine, au Paraguay, en Uruguay. Vous suivez toujours ? C'est chaud, hein ? Donc en gros, ça fait Espagne, Portugal, Maroc, mais des matchs aussi en Argentine, au Paraguay, en Uruguay. Les supporters vont faire de l'avion, hein ? Sous prétexte que cela permettra de célébrer en Uruguay le centenaire de la Coupe du Monde disputée pour la première fois dans ce pays en 1930. On nous donne une bonne explication. Par ce remarquable tour de passe-passe, écrit Le Monde, le Mondial 2030 aura donc lieu à la fois en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Et donc du coup, bah après, pour 2034, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien, il faut aller faire le Mondial dans une autre région, dit la FIFA. Et l'autre région, c'est l'Asie-Océanie. Et comme par hasard, dans cette région, il y a le Moyen-Orient. Le Monde dit tout ça est un peu cousu de fil blanc. Dès lors, l'Arabie saoudite se trouvait en pole position. Son leader, le prince héritier Mohamed Ben Salman, dit MBS, dont je vous parle de temps en temps ici, avec son rapport un peu particulier aux droits de l'homme, notamment aux droits de l'information. MBS, qui ambitionne de faire du royaume l'un des grands centres de la compétition sportive internationale tous azimuts, donc le golf, la boxe, la Formule 1 et bien sûr le football, sport très populaire dans le pays et dans le monde arabe en général. L'accueil de championnats sportifs mondiaux, le recrutement par des clubs locaux de stars internationales du ballon rond, tels que Neymar, tels que Ronaldo, tels que Benzema, sont devenus un atout majeur du soft power du royaume, en même temps qu'un outil de diversification économique pour la monarchie pétrolière, au point que Mohamed Ben Salman, donc MBS, le prince héritier, s'est vu qualifié de roi du sport washing, cette façon, vous savez, de construire une respectabilité par le sport. L'autocrate, cible constante des ONG de défense des droits de l'homme, j'y faisais allusion à l'instant, ne cache d'ailleurs pas ses ambitions, et il le dit, si le sport washing me permet d'augmenter mon PIB de 1%, je ne m'en priverai pas, a-t-il dit sur la chaîne Fox News, je vise même 1,5%, appelez ça comme vous voulez, mais j'y arriverai. Après le mondial 2022 au Qatar, vous vous souvenez des débats à l'époque ? Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a soigneusement cultivé ses relations avec MBS. Au-delà des critiques légitimes sur la nature du régime saoudien, cependant, cette nouvelle controverse met M. Infantino et la FIFA, énorme machine à profit, en demeure d'expliquer beaucoup mieux qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici comment sont prises des décisions qui, au mépris de toutes les priorités environnementales, favorisent la construction de stades réfrigérés, bouleversent les calendriers de compétition nationale et contraignent équipes et spectateurs à multiplier les voyages d'un continent à l'autre. Je résume, vous avez aimé le championnat du monde au Qatar ou pas, vous allez aimer ou pas le championnat du monde de football en Arabie Saoudite avec un processus de désignation qui, selon le journal Le Monde, manque à tout le moins de transparence et de clarté. Allez, je vous lis un petit peu. Et puis on parle de taratata parce qu'on va pas parler que de choses tristes. Non, c'est pas aux joueurs de boycotter ce genre de rencontre. Et Trip 45 qui dit les joueurs ont le choix de boycotter tout ça. Ce ne sont pas les joueurs qui sont en capacité de choisir les pays qui sont les pays hôtes des mondiaux, donc ce n'est pas aux joueurs de porter la responsabilité de boycotter ou pas. Voilà. C'est à la FIFA de faire son travail et d'organiser des mondiaux dans des pays où les valeurs environnementales et les valeurs des droits de l'homme sont respectées. C'est pas aux joueurs de le faire. C'est à la FIFA, c'est son boulot. On est d'accord. Pour le saut de 2030, là, entre le Maroc, l'Uruguay, etc., là, en termes environnementaux, ça va être une catastrophe aussi en termes de déplacement, bien sûr. Goupil s'interroge, quand allons-nous cesser de faire ces clins d'œil à ces pays autoritaires, Qatar, Arabie Saoudite, coupables des pires crimes que ces régimes peuvent produire? C'est une question à poser à la FIFA. Effectivement. Ce n'est que le début de ce débat. Vous allez voir, le monde là, nous alerte un peu sur ce sujet. Vous allez voir que c'est des débats qui vont pop pas mal dans les médias dans les prochains mois, je pense. Comme le dit Jean Valdu, qui n'est pas dupe, la FIFA, elle fait son travail malheureusement, gagner le plus de thunes possible. Je pense que tout est résumé ici. Hein. Merci Diesel pour le 15e mois d'abonnement. On parle d'environnement, il y a Diesel qui sub. Enfin Diesel. C'est intéressant ce que dit Hall. Je ne suis pas d'accord avec toi, Sam. En NBA, NFL, NHL, MLB, quand des conflits apparaissent, ce sont les joueurs qui décident de boycotter leur propre sport via le syndicat des joueurs et les problèmes se résolvent très rapidement. Est-ce que ce n'est pas plus difficile? Là, tu parles de championnats nationaux au niveau des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas plus difficile au niveau d'un championnat mondial? Donc, il faudrait que tous les joueurs de tous les pays agite une menace de boycott. Là, tu parles de joueurs organisés dans des syndicats, tu le dis toi-même, hein, syndicats des joueurs, au niveau d'un pays, et même d'un championnat dans ce pays. Donc ces joueurs sont organisés au sein d'une structure, ils peuvent se parler, ils peuvent s'entendre, ils ont des intérêts communs. À un niveau mondial, avec des joueurs de football de différents pays qui ne sont pas organisés en syndicats entre eux, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Bon bref, vous avez aimé le débat sur le Qatar, le même arrive sur l'Arabie Saoudite. Coucou Samuel, je suis avec c'est trop mignon. Il y a Tisane Time qui nous envoie un très gentil message, qui fait de bien en cette période d'actualité un peu dure et troublée. Coucou Samuel, je suis avec ma mamounette qui te découvre sur Twitch, elle est ravie, on te souhaite une bonne soirée. Je vous salue tous les deux, mamounette et Tisane Time, merci beaucoup d'être avec nous. On a parlé de choses un peu compliquées, un peu tendues, là, notamment sur le Proche-Orient. Et on est en train d'aller vers du plus léger, puisqu'on va parler de Taratata, anniversaire, de la Paris Games Week, où je serai demain matin, et puis d'un joli portrait d'Alison Wheeler. Et après, bon, on fera un petit, s'il me reste un petit peu de temps, on fera un petit, peut-être un petit peu de gaming, pour se détendre. Voilà. Oui, demain, je serai à la Paris Games Week, à partir de 10h, on fait un petit stream. Je vous lis un petit peu et on va enchaîner avec Taratata. Taratata, je kiffais cette émission, Loïs Lé. Mais que fais-tu ici? C'est en direct sur France 2 à l'heure où on parle. C'est en ce moment l'anniversaire sur France 2. C'est Nagui qui fête les 30 ans de Taratata. J'étais avec lui hier soir sur le plateau de France 5 dans C'est à vous. Ah bah justement, il est là. Regardez, c'est dans le Figaro de ce matin. L'animateur célèbre donc les 30 ans, ça n'est pas rien, hein, de son émission qui a failli disparaître à plusieurs reprises. Et Taratata existe toujours, et il faut le reconnaître, c'est grâce à un homme, et cet homme s'appelle Nagui, avec la diffusion d'un concert géant. C'est en ce moment même sur France 2, d'ailleurs, hein, vous pouvez l'entendre, le regarder ou l'entendre ou l'écouter en fond, puisque c'est de la musique. Hein. Un concert géant réunissant plus de 80 artistes à Paris de la Défense Arena, donc c'est pas en direct, hein, ça a été enregistré il y a quelques semaines. Nous y avons assisté. Il n'imaginait pas, il c'est Nagui, que Taratata puisse durer aussi longtemps. Au début, il le reconnaissait lui-même. Il aurait été prétentieux de parler sur plus de 2 mois d'existence. Taratata a 30 ans. 30 ans après, malgré bien des vicissitudes, le programme est toujours là. Il est devenu une institution, une survivance un peu de l'ancien monde. Hein. Des émissions de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Question pour un champion, il y a Turbo, il y a Des chiffres et des lettres. C'est à peu près tout. une survivance de l'ancien monde, alors que toute la télévision ou presque a renoncé à diffuser de la musique jouée par des êtres humains. Taratata fait de la résistance toujours et encore. Mieux, elle célèbre ses 30 ans en grande pompe. La plus vaste salle d'Europe, Paris La Défense Arena, a accueilli la fête qui est retransmise, là en ce moment même, sur France 2. Une alternative bienvenue à la toujours pénible séance des victoires de la musique annuelle avec un dispositif inédit, une scène centrale bordée de musiciens accompagnateurs, batterie, guitare, basse, cordes, cuivre, installée au beau milieu d'une foule de 41 000 euros spectateurs. 3h30, c'est énorme. 3h30 de musique, jouée par 84 artistes triés sur le volet, français et internationaux, qui s'étaient donné rendez-vous, c'est en ce moment même, sur France 2. Les fameux duos inédits orchestrés par Nagui ont pour l'occasion été élargis, donc ça c'est une des spécificités de Taratata, c'est un des trucs les plus sympas, c'est des duos, des trios, des rencontres entre musiciens de différents univers. Donc il y a des duos élargis à 4 chanteurs ou plus autour de figures totémiques, Jean-Louis Aubert, Eddy Mitchell, Véronique Sanson, Charlene Spiteri du groupe Texas, Julien Clerc, Bernard Lavilliers, Michel Jonas, Nile Rodgers. Sur scène, les surprises s'enchaînent, sans temps mort, le répertoire du classique, du solide, de l'éprouvé. Bref, si ça vous intéresse, c'est en ce moment sur France 2. Voilà. Et en gros, l'article dit que c'est plutôt OK. Je ne sais pas si certains l'écoutent en ce moment. Dernière émission de variété. Ouais, un petit peu, Jaguar du Nord. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. À quand de la funk sur Taratata? Nile Rodgers, c'est un petit peu funk quand même. Voilà, tiens, j'ai converti Babylonia qui vient de se mettre sur la 2. Voilà, c'est pas mon type d'émission, mais bravo pour les 30 ans d'IMAV 131. Moi, c'est ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que je suis pas forcément particulièrement fan du travail de Nagui, on fait des choses différentes, mais il faut reconnaître que si Taratata a existé, et si Taratata a existé aussi longtemps, parce que l'émission a quand même failli disparaître un sacré paquet de fois, comme le rappelait le Figaro, c'est grâce à lui. Voilà, il a vraiment tenu à faire durer cette émission dans le temps, et on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise nouvelle pour la musique en France, quoi. Voilà. Bon, c'est cool, vous êtes plusieurs à avoir mis Taratata en fond, c'est cool, ça me plaît. Bon, c'est en ce moment, et puis ça, c'est en ce moment aussi, et surtout demain matin, puisque je vous propose demain à partir de 10h un stream en direct de la Paris Games Week. Alors je suis assez un petit peu fébrile parce que c'est ma première Paris Games Week. Je suis un jeune gamer, vous le savez, je me suis mis au jeu vidéo il y a très très peu de temps. Toutes les facettes du jeu vidéo à la Paris Games Week, c'est un article qui était publié ce matin dans Le Parisien. La Paris Games Week, PGW, est le plus grand salon français du jeu vidéo. Donc là, je parle à ceux qui, comme moi, ne connaissent pas ce rendez-vous. Ce sera ma grande première demain. Demain matin, un stream, puis après je vais me balader dans les allées pour voir un peu les gens, voir qui fait quoi, essayer de comprendre un petit peu tout ça. Des grands classiques rétro gaming aux innovations qui feront les succès de demain. L'événement attend plus de 300 000 visiteurs, c'est beaucoup quand même. En l'espace de 5 jours, il se décline en plusieurs univers. La plus importante invite à des sessions live de jeux en tout genre. Le public pourra assister à des matchs d'e-sport. À l'approche des Jeux Olympiques, la Paris Games Week a aménagé 1800 places assises, deux fois de plus qu'en 2022. Pour des compétitions sportives avec les meilleurs talents de la discipline et les plus grands streamers de France. On me dit que Pépipin sera là-bas, David me dit. Il y a Nico Manga qui me dit: j'espère que tu t'es entraîné sur les questions de l'univers PlayStation. Non, c'est moi qui les pose demain. Je rappelle que demain il y a un quiz gaming, hop, je vous remonte le petit visuel, qu'on fait avec Julien Chiez sur la grande scène de la Paris Games Week. Voilà, sur l'univers PlayStation, il y aura des questions pour les gens qui sont sur place et des questions qui sont réservées pour vous, pour le chat, et il y aura à gagner des consoles, alors ça c'est sur place, des manettes c'est sur place, et pour vous, il y aura une dizaine de jeux, je crois, Spider-Man. Voilà. Donc demain, on a rendez-vous de 10h à 11h30 sur ma chaîne Twitch, et on sera donc IRL en direct sur la scène, la grande scène de la Paris Games Week. Donc on sera là demain. Voilà. Et je reviens à l'article du Parisien. Parmi les personnalités invitées, les fans, alors qui on peut trouver à cette Paris Games Week? Retrouvons Kameto, donc vidéaste spécialisé, nous dit le Parisien, dans le gaming et l'e-sport, vous connaissez bien sûr, et président fondateur de la structure e-sportive française à succès, Carmine Corp. Julien Chiez, Samuel Etienne, pas qui c'est, ah oui, c'est le vieux truc là, qui se donne des airs de jeune là, je débecte celui-là, il m'énerve. Lohan, Domingo, PALA, Xari, Tiens, Xari, il vient bientôt dans Simplay. Je lis. Ou encore Dwagby, attendu sur le stand de la Paris Games Week ce samedi 4 novembre. Les milliers de visiteurs viennent avant tout pour jouer, découvrir les nouveautés en avant-première. Nintendo, PlayStation, Xbox feront donc tester leur dernière console de jeu en préparation. Tout le monde peut venir déguiser. Ah, ok. Et assister ce dimanche à 17h à la finale de cosplay. Dimanche à 17h. Ah bah tiens, je pourrais peut-être venir voir. Les ados pourront découvrir les écoles de formation dans le domaine du jeu vidéo. Il en existe une centaine en France. Les parents questionnaient les membres de la P... De quoi ? Les membres de Pédagogeux sur le choix des jeux. Le temps passé devant les écrans. Les systèmes de contrôle parental, c'est bien ça. Un espace made in France permettra enfin de tester des jeux comme En Garde ou Dordogne. Artitude. Ah, ça m'intéresse ça. Artitude. Galerie qui fusionne art contemporain et culture geek. Exposera 40 posters exclusifs et inédits sur l'univers des jeux vidéo. Réalisé par les artistes du collectif Maison. Chaque jour, trois d'entre eux customiseront gratuitement les objets apportés par les visiteurs. Moi, je ne connais pas Artitude, mais quand je vois galerie qui fusionne art contemporain et culture geek, j'ai bien envie d'aller voir à quoi ça ressemble. Artitude. Artitude. Alors là, j'ai effectivement... Ben, j'ai une page Insta. Je sais pas si on... Qu'est-ce qu'on a ? Ah, j'ai l'impression que c'est autre chose. Ah ! Ouais, c'est... Non, j'ai pas trouvé la bonne. Si, c'est ça ? Ah non, ça ressemble pas du tout à du gaming. Hein. Hum ? Art contemporain et culture geek ? Oh, bah, je trouve pas le truc. Ouais. Bon, moi, je trouve pas. Oh, ça a mis l'eau à la bouche pendant ce truc-là. Ça vous parle, ça ? Vous êtes au courant ? Bon, bref, c'est jusqu'au 5 novembre. Donc, le 5, c'est quand ? C'est dimanche. 8h30, 18h30. Moi, j'y serai demain à 8h30. Le live commence à 10h. Parc des Expos, Porte de Versailles à Paris. 20€. 16€ de 7 à 17 ans. Gratuit pour les moins de 7 ans. Voilà. Il y a Malo qui m'a demandé de l'emmener. Bon, de toute façon, il rentre que dimanche de vacances. Donc, je pourrais pas l'emmener. Mais disons que l'année prochaine, je l'emmènerai. Malo ! Tenaka07, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Lerutan59, merci pour le sixième mois. Merci pour le soutien. 20€, c'est pas donné. Ah, bon, t'as raison, Poppy Pop, c'est cher. 20€. Si t'as moins de 17 ans, c'est 16€. C'est cher quand même. C'est cher, 20€ quand même. Oui, Julien Chiez, il est déjà venu dans l'hebdo Etienne, Nico en fait. C'est mignon. À propos du cosplay, du concours de cosplay, il y a Bashi Brozouk, le collant qui nous s'amène, t'aurais laissé pousser les cheveux, t'aurais pu cosplay de Witcher. Je rappelle que si tu parles de Gérald de Rive, on est en mode beau gosse là. Donc même avec les cheveux longs, je suis pas sûr d'arriver à 1% de sa sexiness. 20€, c'est pas cher ? Bah si, c'est cher. Si, c'est cher. Si, 20€, c'est cher. Et où ? Ça fait 120 francs. Ça fait plus de 120 francs. Moi, dans ma tête, je suis encore en francs, moi. Comment ça, c'est pas cher ? Bah si, c'est cher. Il y a un débat dans le chat, là. Mais 20€, bordel. C'est plus de 120 francs. Non, mais à mon époque, on m'aurait demandé de payer 120 francs pour rentrer dans un salon. J'aurais dit, mais va te faire foutre. Putain, on s'est habitué à l'inflation, nous, hein, je crois. Hein, ça y est. Hein. 120 francs. Putain. Moi, pour me rendre compte de la hausse des prix, je traduis tout en francs tout le temps. C'est cher. Tiens, comme le dit Chris, que 20€ pour prendre un bain de foule, pas pouvoir s'asseoir et se faire bousculer sur tous les stands une fois, pas deux. Après, c'est génial, me dis-tu. Ouais, je sais que les francs, c'était il y a deux siècles, mais moi, je parle en francs, moi. Enfin, je pense en francs. Je parle en euros, mais je pense en francs. C'est cher, bordel. C'est même 132 francs, me dit Lerutan. Voilà. Ouais. Vu le prix d'une place de cinéma, c'est pas cher. Mais le cinéma, c'est trop cher. Hein. Tout est trop cher. Fout de notre... Désolé, mais quand tu vois l'augmentation du pouvoir d'achat des Français et la hausse des prix, pour ne parler que des biens culturels, de consommation culturelle, je suis désolé. Sans parler du prix des bagnoles, mais je suis désolé. On s'est bien fait arnaquer quand même. Hein. Vous avez le sentiment, vous, que les salaires ont suivi la hausse des prix de tous les produits qu'on est en train d'évoquer là ? On s'est bien fait baiser, oui. Excusez-moi. Hein. Pardon, il y a une dame un peu âgée qui était avec nous tout à l'heure. Je suis désolé, mais hein, pardon. Hein. Alors, libre à vous de vous habituer, hein. Mais on s'est bien fait avoir. J'ai lancé un sujet. Bon, on va finir de façon légère avec quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en la recevant dans les Bleuetiennes et que j'aime beaucoup, qui est Alison Wheeler, voilà, qui a une pleine page dans la dernière édition du Monde, l'humoriste Alison Wheeler, voilà, qui nous a bien fait rire quand elle est venue dans les Hebdo il n'y a pas très très longtemps. On s'est vraiment régalé. Alison Wheeler soigne ses contradictions sur scène puisqu'elle a arrêté la télé. Elle était notamment quotidien, mais elle a fait plein de choses avant pour partir en tournée sur son spectacle. Et manifestement, c'est sympa. Le monde a aimé, en tout cas. L'ancienne chroniqueuse de TMC présente son premier spectacle, drôle et touchant, sur sa condition de trentenaire désenchantée. J'avoue que je suis assez fan. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je suis assez fan. Voilà. Bon, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais ça revient sur son parcours. Studio Bagel, collectif de comiques très inventifs qui ont popularisé les sketchs filmés pour le web. Miss Météo barrée dans le Grand Journal sur Canal+, chroniqueuse férocement drôle sur France Inter, puis dans Quotidien sur TMC. Elle a roulé sa bosse, elle a fait des trucs quand même. Hein. Voilà. Elle a choisi de quitter la télévision, donc c'est une vraie nouvelle aventure pour elle, pour se consacrer à cette nouvelle aventure artistique qui s'appelle La promesse d'un soir. Son spectacle, tiens, je vais essayer de vous donner envie un petit peu. Son spectacle offre une forme d'autoportrait en résonance avec l'époque, celle d'une trentenaire qui fait le bilan sans concession sur sa santé mentale, instable, son rapport aux hommes. Je suis celle, je la cite, je suis celle juste avant celle qui l'épouse, je suis quoi, un centre de formation ? J'aime bien. Et sur la gamine qu'elle était. Il y a des trucs qui semblent assez touchants dans ce spectacle d'ailleurs. Cela crée des moments hilarants, comme son pétage de plomb en pleine baby shower. Hein, c'est la fête prénatale, vous savez, pour... honorer une future maman, et sa vision sur le stalking, traque des ex sur les réseaux sociaux, ou encore émouvant, moi ça m'a touché ça, comme sa rencontre imaginaire avec l'enfant de 10 ans qu'elle était. Alors j'avais jamais pensé à ça moi, et je me suis arrêté là-dessus. Ça vous est arrivé de penser à ça un jour, vous, les adultes, voilà, les plus âgés? Un jour, imaginez si vous aviez la possibilité d'aller, alors pas de revenir en enfance, mais de rencontrer l'enfant que vous étiez. Il y a Guy Costache qui dit souvent. Ah, vous y pensez souvent ? Il y a Saul Reverzum qui dit oui, souvent. Ah, c'est drôle. Grave, je vous donnerai tellement de conseils, me dit Nima non. Ah, c'est drôle, vous êtes plein. Rimek me dit j'y pense souvent aussi. Moi, j'y ai jamais pensé. Et en fait, en lisant cet article du Monde sur les Sun Wheeler, je me dis ah ouais, ce serait dingue. Pour lui donner des conseils, lui glisser des conseils. Il fait putain, fais pas ça. L'autre, là, quand tu vas le rencontrer, zappe tout de suite, que des emmerdes. Oh, c'est mignon, il y a Renan qui dit l'enfant est toujours là. Je pense que l'enfant que j'étais aurait peur, me dit Lois Lane. Pas de conseil, juste fonce, me dit le mandril. Oh, c'est trop touchant. Ah, c'est drôle. Ben, vous êtes plein à avoir pensé à ce truc. Oh, c'est mignon, il y a Cyramine qui dit « Je l'ai rencontré, l'enfant que j'étais, en une autre personne. » Oh. Excellent. Il y a Métia qui dit « Si je rencontre mon moi enfant, je lui dis « Achète du Bitcoin. » Ursin80, merci pour le soutien. Ah, c'est drôle. Seul conseil sans rien interférer, dirais-je à mon moi enfin, dit Cannibal Lecteur, « Ose. » C'est drôle. Oh, c'est marrant, il y a Bashi Brozu qui me parle d'une chanson d'Orelsan que je connais pas, qui évoque ce sujet. Attends. Qui s'appelle Note pour trop tard, Orelsan. Déjà, rien que le titre, Note pour trop tard. On va pas la passer, bien sûr, on va pas se faire ban. Bêtement, je l'ai. Déjà, l'intro est magnifique.
Ok. J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages.
Ok, je me la mets de côté, je me l'écouterai après ce stream. Merci pour le conseil. Ça, c'est étonnant que vous y pensiez souvent à ça. Je retrouverai le moment où je disais quand j'étais enfant que je boirais jamais de bière juste pour rire, me dit Inconnu. Oh, c'est mignon, il y a Joe Ananas qui dit « Moi, j'y pense souvent, mais j'aurais juste un truc à lui dire, ça ira. » C'est hyper touchant. On lui dirait, dit Hall, « Profite, ça va pas durer. » Eden Gilmore, je lis ton message qui me touche, force à toi. Je lui dirais de moins angoisser de profiter de son enfance, de sa jeunesse, me dit Dementoria. Je lui dirais crois en toi, dit Pulpitane. Ah, vous connaissiez la chanson d'Orelsan? Ah, ça a l'air trop bien. Non, je la connaissais pas. Un message à moi-même, protège-toi, dirait Hume. Je lui dirais, me dit Dankulov. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Je lui dirais, crois en toi, Floby One. Ah, j'y ai jamais pensé, moi, ça. De rencontrer mon moi enfant. Mais je trouve ça totalement séduisant comme idée. Oh. Bah, c'est hyper touchant ce que vous dites. Je lui dirais les réponses du bac, petit Pachi Brouzouk. Moi, je lui dirais de lire Platon quand la lecture de roman t'aura comblé. C'est mieux que de fumer des joints. Je lui dirais, passe moins de temps sur les jeux vidéo, tu loupes des choses, tu regretteras plus tard, Inconnu. Moi, je lui dirais, touche pas à la clope, me dit Tchernosaurus. Splash, perso, je lui dirais, amuse-toi, ne prends pas les choses inutiles, trop au sérieux, ne t'attarde pas sur l'opinion des autres. Ne fume surtout pas, lui dirais Steak Fritz. Je lui dirais, ce que tu ressens et ce que tu es est normal, ne laisse personne te faire croire le contraire. Ça me mec. Qu'est-ce que je lui dirais, moi? Rien, moi. Moi, je lui dirais rien. Je lui dis, tu vas faire des erreurs. Tu vas te tromper, mais il faut que tu fasses ces erreurs, en fait. Ça fait partie de ton histoire et de ta construction. Et les belles choses qui vont t'arriver vont te construire. Et les mauvaises choses qui vont t'arriver vont te construire. Mais c'est comme ça, en fait. C'est beau ce que vous dites. C'est même assez émouvant. Hall, je lui dirais, va voir Samuel, dis-lui de ne pas tomber dans les jeux vidéo. Monesh de Noob, je lui parlerai de la transidentité pour qu'il comprenne pourquoi il se sent différent. Vous dites des trucs super émouvants quand même. Sylvanos, je lui dirais d'essayer de mieux gérer le futur divorce de ses parents. Oh, arrêtez avec vos messages, c'est affreux. Je lui dirais, même si elle râle, harcèle ta maman pour qu'elle arrête de fumer, tu l'auras plus longtemps, dans Twitch. Kiyoma, je lui dirais, lance-toi dans le dropshipping avant que ce soit bouché. Salut Annie. Oh, Annie. Et Annie qui nous rejoint. Annie, tu tombes sur un moment magnifique. On est parti d'un portrait d'Alison Wheeler, l'humoriste dans le monde. Et quelque chose me touchait beaucoup dans ce portrait, puisque Alison dit que le truc qu'elle aimerait bien faire, c'est rencontrer l'enfant qu'elle était. Et du coup, on a lancé on a tiré un fil rouge. Et en fait, il y a plein de gens dans le chat qui disent mais moi, j'y pense souvent à cette rencontre avec mon moi d'enfant et à tout ce que je lui dirais, et en fait je tombe sur des messages de fou. Waouh. Waouh. Vous êtes con, c'est hyper beau ce que vous avez écrit, certains. Squally, je lui dirais, tu vas en chier, mais ça ira au final. Lulusor, je lui dirais que même les moments les plus durs ont énormément de valeur et qu'il ne faut pas les laisser nous détruire. Diesel, je lui dirais que malgré tout, tu vas avoir des moments magnifiques de bonheur. Waouh. Yosei, je lui dirais, amuse-toi, ne pense pas qu'au pro, tout va bien se passer, tu seras grand. Waouh. C'est beau. Oli, je lui dirais, perds pas ton temps à me parler, retourne jouer sur ton Amiga, tu perds du temps. Ce mec 17, je lui dirais, ne prends pas trop au sérieux ce qui ne doit pas l'être. Dementoria, je crois que je la prendrais dans mes bras, elle en avait besoin. Rimek, je lui dirais de ne pas être dur avec lui-même et que tout ira bien et de se lancer sur un truc qui s'appelle YouTube. C'est beau ce que vous décrivez. Julie, je lui dirais que chaque chose difficile sera une expérience pour rendre la vie facile. Alia Jasmine, je lui dirais que tu es géniale, mais crois en toi, fais ce qui te plaît. C'est incroyable. C'est de con, hein, faire pleurer là. C'est très beau ce que vous écrivez. C'est beau ce que vous écrivez. Bon, bah, vous voyez, on est parti sur un portrait de l'humoriste Alison Wheeler et je m'attendais pas du tout à cette séquence, en fait. C'est vraiment, j'avais jamais pensé à cette idée de rencontrer son soi enfant. Mais j'aimerais bien juste voir le bonhomme, le voir bouger, le voir évoluer, le voir dans ses rapports avec les autres. Flobby One, je lui dirai, tu verras un jour, tu pourras accéder à toute la musique que tu voudras de ta chambre. Waouh. Merci les amis. Bon, quelle heure il est? 22h48. Alors 22h48, donc c'est un petit... Oh, c'est un petit stream, ça, 2h17. Qu'est-ce qu'on fait? Alors où je suis là? Bon.